pour ce lancement de la 15e édition de La Science se livre. Donc, on a souhaité, pour le premier semestre de déroulement de l'opération sur 2016, profiter des 15 ans de La Science se livre, puisque tel est le cas, pour revenir sur 15 ans de science. Alors, en 15 ans, il s'est passé plein de choses au niveau scientifique. C'est pour ça qu'on a voulu que ce matin, que certains intervenants vous fassent un petit point sur des éléments à la fois d'ordre locaux, hein, puisque on a la chance d'avoir les intervenants du CNRS, du laboratoire Péprime, on va vous en dire plus, mais aussi à travers cette rétrospective, vous permettre de bâtir un programme qui devrait engager vos publics sur une interrogation au niveau scientifique, technique, technologique, puisque les 15 ans en question, au niveau scientifique, c'est comme la langue d'Ésope, hein, il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a eu les accidents industriels, il y a eu un certain nombre d'interrogations sur les sciences du vivant. Au niveau technique, technologique, rappelez-vous comment vous fonctionnez en 2000-2001 avec vos petits téléphones portables, si vous en aviez, parce qu'à l'époque, seulement 10% de la population avait des téléphones portables. Maintenant, je me demande ce qu'on ferait sans téléphone portable, heureusement ou malheureusement. Bref, on voit qu'au niveau technologique, la connexion, l'interconnexion est devenue aussi massive. Donc tout ça, il va falloir le présenter, le réexpliquer. Il y a une autre dimension, mais vous le savez, à l'Espace Mendès France, on y tient. Une autre dimension qui nous intéresse, c'est de revenir sur un certain nombre d'éléments de rapport entre la science et nos concitoyens. Il y a eu moult événements qui ont engagé un certain nombre de communautés, je vais parler des médecins par exemple, à se réinterroger sur des choses qui paraissaient acquises. Regardez le mouvement anti-vaccination qui est en train de monter partout en France et en Europe. Et récemment à Paris, il y a eu une conférence où y compris des médecins se sont interrogés en public sur la pertinence des vaccinations. Donc je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on voit qu'il y a des choses qui paraissaient acquises au niveau scientifique et technique qui renvoient à des problèmes de société. Il en va de même pour des choses qui vous seront présentées ce matin. Je pense aux robots, par exemple, sur les technologies qui permettent de calculer plus vite et donc de faire agir plus vite des machines. À quel moment est-ce que le rapport entre l'homme et la machine va devenir trouble? On n'en sait rien. Peut-être que M. Gazou nous donnera quelques éléments ce matin. Toujours est-il qu'il y a une dimension sociale, politique, éthique, et nos concitoyens sont de plus en plus, comment dire, interpellés par tout ça, et c'est logique, hein. Je ne parle même pas des OGM, de la production. Je ne parle même pas de la mécanique, je pense au moteur diesel de Volkswagen, puisque on vient d'apprendre ce matin que 100% des producteurs de voitures depuis 15 ans ont menti sur leur moteur. Voilà, bon, bref, donc on voit bien que la confiance dans la science et la technique est en cause, et tout ça doit être largement mis en débat. Voilà, donc encore une fois, merci à toutes et à tous. Sur ces 15 ans, on a fait monter cette petite opération. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, Christine montrait le livret, hein. Ce livret, il tiendrait sur 3 pages de la plaquette. Maintenant, on doit être rendu, je sais pas, une dizaine, une douzaine de pages. Alors, je voulais vous parler de 2 choses d'actualité. La première, c'est cette affiche COP21 sur le climat. Si ça vous intéresse, l'exposition qui vient d'être réinaugurée à l'Espace Mendès France, à l'étage, est d'accès gratuit. Avant de partir, si vous voulez aller jeter un œil, y faire un tour, il n'y a aucun souci, hein. On va la faire allumer puis brancher les multimédias. Cette exposition itinère ici en Poitou-Charentes avec l'aide de la région. On a tiré une douzaine de jeux. Il y en a 2 par département. Ça permet de pouvoir la présenter. Une douzaine de jeux de la taille que vous verrez là-haut, hein, c'est-à-dire c'est des grandes banderoles, mais on a aussi tiré une dizaine de jeux de petite taille, 90 par 60, qui permet d'aller dans des lieux un peu plus petits. Donc si vous étiez intéressé par cette présentation, dites-le nous. Elle a également été prise par le réseau Canopée, hein, ça va être tiré à 110 exemplaires, un par département et en dom-tom, et elle va être présente dans une trentaine de pays différents. Elle a été traduite en philippin, en anglais, bientôt en japonais, j'ai appris ça tout à l'heure, en espagnol et en portugais. Voilà, donc elle sera dans tous ces pays-là au moment de la COP21, je vous rappelle, hein, 30 novembre, 10 décembre. Il y aura une grosse demande de nos publics là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, regardez. Et puis, le dernier point dont je voulais vous parler, qui nous concerne, nous, Espace Mendès France, mais vous toutes et tous aussi, c'est le passage à la grande région. Le 1er janvier 2016, la région Poitou-Charentes existera toujours en termes géographiques, mais n'existera plus en termes administratifs. Donc une structure comme l'Espace Mendès France sera adossée à partir du 1er janvier 2017 à la région, je ne sais pas comment on l'appellera, Grande-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, Sud-Ouest Atlantique, je n'en sais rien. Et donc en particulier, nous avons préconisé que la science se livre devienne interrégionale ou régionale, grande région, etc. Donc on sera amené à solliciter au-delà des quatre acteurs dans les quatre départements desquels vous faites partie, les huit autres, parce que ça fait 12 au total, les huit autres départements. Donc la science se livre va être amenée à s'étendre, tout comme l'opération que nous menons qui s'appelle Image de Science. On a eu une réunion et en fait, il y a une soixantaine de salles de projection, d'art et d'essai ou de salles de projection en général, qui, à partir de 2016 ou de 2017, s'engageront aussi sur Image de Science. Donc ces deux opérations qu'on a fait vivre grâce à vous, à votre action, à votre mobilisation, à votre dynamisme, en fait, nos collègues des deux autres régions, c'est-à-dire Limousin et Aquitaine, ont souhaité la reproduire, la reprendre. Donc vous allez faire partie bientôt d'une grande communauté. Et je voulais vous remercier, parce que je parle souvent de cette opération La Science se livre, commencée à 8 et poursuivie à plusieurs dizaines maintenant, grâce à vous. Donc j'en parle souvent. Je viens d'écrire un papier pour Madame Pellerin, la ministre de la Culture, et l'opération que je cite, c'est la nôtre. Donc La Science se livre, en montrant que entre des actions très classiques de l'action culturelle que sont les éléments que vous développez autour de la lecture publique, le croisement avec les sciences, la culture, l'accès à tous et à toutes de cette information un peu particulière est possible. Et donc, vous verrez, ça paraît dans la revue du ministère de la Culture le 1er octobre prochain. Donc, ça veut dire que cette opération est devenue exemplaire au niveau national et je voulais vous en remercier. Voilà, donc Christine, un petit mot sur le programme pour tout le monde. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas, l'exposition, vous pouvez même en quelques minutes regarder les éléments, l'exposition COP21, pour nous dire si éventuellement c'est un support qui vous intéresse. Voilà. Donc, merci, bonne journée de travail. Christine.
Donc bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus individuellement. Donc moi aussi je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, de lancer donc cette 15e journée de formation. Alors je dis qu'au début, dès qu'en 2001, donc cette journée de formation ne devait pas exister tout à fait au début, mais on a rapidement mis ça en place, et donc avec ABCD à l'époque, et maintenant c'est donc avec le Centre du Livre et de la Lecture. Donc je voulais aussi remercier notre partenaire qui nous permet de mettre en place cette journée et qui justement montre le lien entre les sciences et puis le monde des livres. Donc le programme est riche, je pense que vous l'avez tous dans vos dossiers. Effectivement, là cette année on va parler un peu plus de sciences entre guillemets dures. Habituellement on est plus dans les sciences du vivant, c'était le thème de l'an dernier. J'ai listé également tous les thèmes qu'on avait traités depuis 15 ans, donc c'est vrai que cette année c'est plus large, donc c'est comme a dit Didier Moreau, plus sur l'actualité scientifique et un regard un petit peu sur ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas m'attarder trop parce que je ne suis pas une grande bavarde, et puis je préfère laisser la parole donc à Jean-Pierre Gazeau, notre premier intervenant, et je lui ai demandé de parler des robots, donc, et il va se présenter parce qu'il travaille donc à l'université de Poitiers dans un laboratoire sur cette thématique. Je pense que tu as un micro. Voilà.
Alors, bonjour à tous. Est-ce que moi je garde le micro? Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu robotique aujourd'hui. Et moi, je suis rentré au CNRS il y a une vingtaine d'années bientôt. Je suis donc ingénieur de recherche au CNRS dans une petite équipe de recherche qui est localisée sur le site du Futuroscope dans un labo qui s'appelle l'Institut Pépri. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'activité aujourd'hui de recherche qu'on peut avoir et surtout de ses implications aussi bien en environnement sociétal, peut-être à terme dans votre vie quotidienne, et également en environnement industriel. Parce qu'un certain nombre aussi des travaux qu'on développe ont vocation à être transférés et font l'objet aujourd'hui de collaborations contractuelles dans ce contexte-là. Alors, la présentation que je vous ai faite, je l'ai compilée hier soir parce que j'étais pendant deux jours là sur une manifestation grand public à Nantes. Si vous allez voir sur Internet, il y avait une Digital Week, une semaine du numérique à Nantes. Et dans ce contexte-là, il y avait une robotique day. Donc on a exposé un certain nombre de robots avec des collègues de l'école centrale de Nantes à la Cité des Congrès de Nantes. On a vu hier en défilé une partie de la ville de Nantes pendant deux jours dans ce contexte-là. Si vous voulez aller faire un tour sur Internet. Donc je vais vous parler robotique collaborative aujourd'hui. Et tous les robots que je vais vous montrer aujourd'hui en photo étaient hier en démonstration à la robotique day à Nantes. Alors juste quelques mots, l'Institut Pépri, c'est simplement une unité propre de recherche du CNRS. C'est un gros labo, c'est aujourd'hui en termes de taille la deuxième unité propre de recherche du CNRS en France après le LAS à Toulouse. C'est un laboratoire à l'Institut P' qui travaille d'une manière générale dans les sciences pour l'ingénieur. Donc il y a énormément de dispositifs expérimentaux qui servent de support expérimental pour valider les approches fondamentales qui sont développées au sein de l'Institut sur un volet thématique donc, qui est assez large, sciences pour l'ingénieur, mais qui balaye les matériaux au niveau micro, au niveau nano. Il y a un collègue physicien qui passe après qui vous parlera un petit peu justement du boson de Higgs, donc qui travaille dans cette thématique-là. Matériaux, mécanique des solides, donc moi je suis au niveau de cette structure-là, mécanique des fluides, thermique, combustion, détonique. Donc vraiment un spectre très large avec un certain nombre aussi de grands partenaires industriels qui touchent à l'automobile, à l'énergie, à l'aéronautique. Donc tous les grands, je dirais, industriels du transport aujourd'hui sont des industriels avec lesquels on contracte et avec lesquels on fait du transfert aussi de nos compétences. En termes de ressources humaines, juste rapidement, c'est à peu près 500 personnes, l'Institut P'. Bon, c'est un budget qui est assez important, mais c'est surtout une publication scientifique importante. C'est 450 publications internationales par an. Grosso modo, ça fait une revue par chercheur par an. Et puis la présence à plusieurs conférences internationales pour aller valoriser, puis bien sûr échanger avec les collègues scientifiques dans les autres laboratoires internationaux de recherche. C'est 50 contrats par an. Donc ça peut être des contrats justement qui répondent à des contrats européens, des contrats nationaux de recherche et des collaborations contractuelles de manière importante avec les industriels que j'ai cités tout à l'heure. Juste pour la petite histoire, 540 personnes, ces 540 personnes, c'est des personnes qui sont chercheurs à temps plein, qui peuvent être enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'on un mi-temps recherche et un mi-temps enseignement, donc enseignement à l'université ou à l'école d'ingénieurs qu'est l'ANSMA. Des personnels d'appui à la recherche, un nombre important également, pour pouvoir justement assurer le développement de ces dispositifs expérimentaux, de ces gros bancs d'essais pour certains. Moi je vais vous parler d'un département, vous avez vu il y a trois départements dans P'. Moi je fais partie d'un département qui s'appelle le département génie mécanique et systèmes complexes. Donc c'est un département en fait où on fait de la mécanique. Pour illustrer un petit peu ce qu'on fait en mécanique, je vous ai montré un peu une ligne d'arbre qui correspond à celle des propulseurs de la fusée Ariane. Et là, ici là-haut on a un gros banc d'essai là, de 2 millions d'euros qui est un banc d'essai qui permet de valoriser, expérimenter sur des joints labyrinthes. Donc ces joints labyrinthes, c'est des joints qui sont utilisés pour faire l'étanchéité des turbopompes, par exemple dans les centrales nucléaires, ou encore dans les propulseurs de la fusée Ariane. Donc vous voyez, un certain nombre de gros bancs d'essai qui sont développés et sur lesquels on va valider nos approches, les valoriser et surtout les transférer en termes de compétences vers les industriels. Moi aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu. Alors, le département, il y a donc trois équipes. Une équipe qui fait plutôt de la lubrification, qui s'intéresse en fait au problème de frottement, de lubrification entre une machine tournante, un arbre tournant et une partie statorique. Donc ça, c'est la partie lube, ces dispositifs. Une autre équipe qui fait la mécanique expérimentale, donc étudie un petit peu les déformations aussi bien sur les os humains pour voir un petit peu les problèmes par exemple de développement des prothèses avec les médecins par exemple, sur les végétaux, des collaborations aussi à l'INRA pour essayer par exemple d'avoir des végétaux qui résistent mieux par exemple au vent. Donc on va étudier, modéliser le système racinaire et puis on va travailler avec l'INRA pour essayer d'avoir de concevoir aussi des espèces en travaillant sur la génétique qui vont mieux résister. Donc ça c'est de la mécanique expérimentale. Et puis moi aujourd'hui on va parler un petit peu robotique. Donc l'équipe moi, dans laquelle je travaille fait de la robotique. Juste une petite cartographie des collaborations qu'on peut avoir aussi avec des collègues étrangers. Donc ça c'était juste pour la petite anecdote. Et puis moi aujourd'hui, le volet que je vais aborder, c'est notre équipe qui s'appelle Robios. Donc Robios, c'est une équipe de recherche qui regroupe une quinzaine de personnes avec une double compétence, une compétence en robotique et une compétence en biomécanique. Alors, Robios, aujourd'hui, il y a deux opérations de recherche, deux axes de recherche. Donc, moi, je suis responsable d'un axe de recherche qui concerne la préhension et la conception de systèmes mécaniques innovants. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et puis, il y a un autre axe qui concerne la dynamique des systèmes polyarticulés et l'évaluation du mouvement humain, où on va développer, par exemple, des robots humanoïdes. Et puis, on va surtout développer des algorithmes et on va souhaiter valoriser ces algorithmes qui permettent à des robots de marcher et surtout d'avoir des allures de marche qui ne soient pas des allures de marche en quasi statique. C'est vrai que vous voyez souvent des vidéos à la télévision avec des robots humanoïdes, mais souvent ils marchent comme ça. C'est des marches quasi statiques, le robot est toujours en équilibre. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un robot qui marche avec une dynamique de marche où on va avoir justement un équilibre à gérer en dynamique et surtout gérer le fait qu'on peut avoir des interactions avec l'environnement. Typiquement, l'idée, c'est que si vous tapez dans le dos de votre robot humanoïde, il faut surtout qu'il soit capable instantanément de corriger son équilibre. Donc comment est-ce qu'on peut développer des stratégies, surtout de l'algorithmique, qui va permettre de réguler cet équilibre? Ça, c'est ce qu'on va aborder dans cette thématique-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler préhension, conception de systèmes mécaniques innovants. Vous voyez un certain nombre de démonstrateurs là, qui sont développés dans l'équipe. Et puis, avant de vous parler robotique, je vais peut-être revenir un petit peu sur les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'un robot ? Alors, l'histoire de la robotique, puis démystifier un petit peu tout ça, puis montrer un peu aujourd'hui où on en est en robotique au niveau national. Alors aujourd'hui, le mot robot déjà, robota en tchèque, ça signifie travailleur de force. Ça veut dire que le robot, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout un acteur mécanique qui va permettre de soulager l'humain dans les travaux pénibles. D'accord ? Donc essentiellement, à l'origine, le robot il a été fait pour se substituer à l'humain, justement dans la réalisation de tâches pénibles. Vous avez peut-être lu Capek, là, les robots universels de Rossum. J'ai mis une petite affiche, c'était une pièce de théâtre en fait, qui a été écrite en 1924. Le mot robot a été cité pour la première fois dans cette pièce. Et puis vous avez certainement peut-être lu un peu Asimov. Moi j'aime bien la science-fiction, donc c'est vrai qu'Asimov a posé un certain nombre de bases, en l'occurrence les trois lois de la robotique. Donc ça c'est juste pour la petite anecdote, mais ça pose simplement déjà une éthique de base, où en fait on va poser le fait que le robot ne peut porter atteinte à un être humain, on va ensuite dire que le robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains. Vous voyez, on va commencer, je dirais, à se poser la question de la sécurité de l'interaction entre l'homme et la machine. Donc aujourd'hui, on va parler aussi un peu de cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, les robots, ils sont en train de sortir des cages dans lesquelles on les a mis en environnement industriel pour aller au contact de l'humain. Donc comment est-ce qu'on peut appréhender ça et comment est-ce qu'on peut sécuriser cette interaction entre l'homme et la machine ? C'est aussi les enjeux auxquels on souhaite répondre aujourd'hui. Alors, un petit peu d'histoire. Alors, la robotique, ça remonte à très très loin. C'est les débuts de la robotique, je dirais, c'est l'horlogerie. Première horloge qui utilisait la force de l'eau. Donc, c'est vrai que l'horlogerie, ça a été vraiment le début des premiers automates. Après, c'est vrai que si on revient plus récemment, il y a eu le canard de Vaucanson là, qui mangeait, qui digérait. Donc, ça a été vraiment un des premiers automates qui a vu le jour. Léonard de Vinci aussi a fait des croquis intéressants. Si vous avez visité le Clos Lucé, c'est vraiment sympa. Et vous voyez un petit peu tous ces graves. Donc, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a été un des précurseurs sur l'idée qu'on pouvait avoir de ce qu'est un automate et ce qu'aurait pu être la robotique. Donc, c'est vrai que là-dessus, il a... Et puis après, si on remonte à plus récemment, la Seconde Guerre mondiale, c'était le développement des cerveaux mécanismes. C'est-à-dire qu'on a un opérateur qui va interagir avec la machine. Et puis là, on va commencer à voir émerger en fait, les premiers télémanipulateurs métasclaves, en l'occurrence dans le monde du nucléaire. C'est-à-dire qu'on va avoir ici un environnement chaud, irradié, un bras-mètre. Et on va, à travers ce bras-mètre, piloter un bras esclave qui va être dans un environnement hostile. Donc c'est ce qu'on appelle la téléopération ou la télémanipulation. En 1961, il y a eu le premier robot industriel qui a été conçu, que vous voyez en photo ici, qui est le Unimate. Et puis aujourd'hui, depuis début des années 2000, on a une croissance assez importante du nombre de robots industriels en situation. Alors, juste quelques chiffres quand même, ça me paraît important. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que ça me semblait intéressant aujourd'hui de faire un inventaire, un petit peu un état statistique de ce qu'est le développement de la robotique. Il se trouve que si on regarde un petit peu cette cartographie, vous voyez que déjà, il y a une croissance importante. Vous voyez en rouge, ça c'est la croissance en termes de vente annuelle des robots industriels. Vous voyez qu'en Asie, en rouge, Asie-Australie, on a un développement, une croissance, une pente beaucoup plus importante, c'est-à-dire que ça croît beaucoup plus vite, l'implantation de robots, en Asie et en Australie. A contrario, si vous regardez un petit peu ce qui se passe en Europe, nous, la croissance, elle est vraiment très très faible. Je dirais que là, on a une grosse marge de développement. Alors, ça explique aussi un certain nombre de choses, ça explique aussi certainement, si on regarde après au niveau de l'Europe, alors l'industrie automobile est très très consommatrice de robots. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Bon, après, il y a l'alimentaire, il y a électronique, il y a tout ce qui est médical, chimie. Mais ce qui me semble intéressant, c'est quand on regarde un petit peu aujourd'hui les deux grands pays industriels où il y a une industrie forte en Europe, c'est l'Allemagne et l'Italie. Si vous regardez l'Allemagne, on est passé entre 2012 et 2017 de 160 000 robots, grosso modo, à 200 000 robots. Si vous regardez la France, on est en train de baisser actuellement. On est en train de baisser parce que notre industrie, je dirais aujourd'hui, elle est en train, malheureusement, elle n'a pas pris le train en route. On a eu du mal à innover, on n'a pas investi. Et là où les autres investissaient massivement pour essayer de gagner en productivité, c'est vrai qu'effectivement, ça fait monter la main-d'œuvre en niveau de qualification, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un ouvrier, je dirais, n'a plus réellement sa place pour mettre en œuvre ses robots. Par contre, on monte à des niveaux de techniciens qualifiés et on garde de l'emploi en France. Et on garde de l'industrie en France. C'est ce qu'ont fait les Allemands et les Italiens, et on voit que eux, par contre, ils implantent des robots pour garder leur industrie, ils continuent à innover, et ils vont avoir un outil de production qui va continuer à rester performant. Donc ça, on peut en discuter aussi, de ces aspects-là, mais ça, c'est donc un élément clé aussi aujourd'hui de développement, le fait de robotiser, d'innover. Et c'est aussi un facteur de croissance. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup, beaucoup débat. Mais dans le contexte industriel, aujourd'hui, c'est vrai que force est de constater que la France est en retard, et très, très en retard. C'est quoi un robot ? Ben, un robot, simplement, alors en quelques mots, je vais peut-être zapper un petit peu ça. Il y a des mots-clés. Un robot, avant tout, c'est de la mécanique. Sans mécanique, il n'y a pas de robot. C'est-à-dire, si je vais plutôt prendre cette définition-là, un robot, c'est d'abord un dispositif mécanique articulé. C'est de la mécanique. Si vous n'avez pas de mécanique, vous n'avez pas de robot. Ensuite, ce qui est important, c'est que le robot, c'est un dispositif mécanique qui doit être capable d'imiter certaines fonctions humaines, telles que la manipulation ou la locomotion, dans le but, dans quel but, de se substituer à l'homme pour la réalisation de certaines tâches matérielles. Voilà un petit peu ce qu'est un robot et ce que doit être un robot. La robotique, c'est quoi ? C'est simplement l'ensemble des activités de construction et de mise en œuvre des robots. Voilà quelques définitions et ça me semblait important de les repréciser. Alors aujourd'hui, quand on fait de la robotique, on est au cœur des sciences de l'ingénieur. Parce que la robotique, c'est quoi ? La robotique, c'est plusieurs disciplines essentielles. C'est la mécanique, c'est l'électronique, c'est de l'informatique, c'est de l'automatique. C'est-à-dire, quand vous concevez un robot, vous êtes au cœur de ces quatre disciplines. On parle aussi beaucoup de mécatronique. La robotique, c'est vraiment le père de la mécatronique. Enfin, la mère de la mécatronique, pardon. La mécatronique, elle est née en 69 dans l'entreprise Yaskawa. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mécatronique. Ben, mécatronique, en fait, c'est une démarche de conception. Et c'est une démarche de conception qui va mettre en synergie la mécanique, l'électronique et l'informatique. On ne fonctionne plus comme avant. Autrefois, ce qu'on faisait, c'est qu'on concevait un système mécanique, mais quand on concevait la mécanique, on ne se préoccupait pas de la façon dont on allait la piloter derrière. Ça amenait à des usines à gaz, et ça amenait surtout à des erreurs stratégiques en termes de conception, parce que ça faisait que certains systèmes mécaniques, n'ayant été pas conçus en amont en pensant à la commande, étaient non pilotables derrière. Donc la mécatronique, depuis quelques années, c'est vraiment une démarche qui permet de mettre en synergie la conception et la fusion entre ces quatre disciplines qui travaillent en parallèle dès l'écriture du cahier des charges jusqu'à la réalisation du prototype opérationnel de robot. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'est la mécatronique. Aujourd'hui, quand on fait de la robotique, bien sûr, on a parlé du côté social. Mais aujourd'hui, on a monté à Poitiers, on est en train de monter un petit groupe de recherche avec Cédric Bouquet du CERCA, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il faut aussi que l'humain accepte le robot et qu'il voit pas l'humain que l'humain ne voit pas le robot comme un concurrent, mais le voit comme un collaborateur. Donc ça veut dire que, bien sûr, on est obligé de s'intéresser à la psychologie, aux sciences cognitives et à la façon dont l'humain va percevoir le robot et comment le robot va pouvoir intégrer sa perception qu'il a de l'humain pour pouvoir s'adapter à son comportement et surtout s'adapter à son comportement en temps réel. Donc ça, c'est des vraies problématiques, c'est des problématiques qui nous intéressent au plus haut point parce que ça va, bien sûr, naturellement, impacter à la fois le design du robot mais impacter également, d'une manière importante, l'intelligence qu'on va greffer dans le robot. C'est-à-dire la façon dont on va le piloter, dont on va le faire interagir avec son environnement. Bon, j'ai essayé de ne pas employer trop de gros mots ce matin, ça va pour l'instant. Alors, pourquoi un robot ? Je vous ai simplement mis ici une petite illustration de voilà, où en est la robotique. Ça, c'est une image. Le robot, depuis le début des années 60, il est essentiellement implanté en environnement industriel. Des coupes de viande, là c'est de la dépôt, c'est ce qu'on appelle des tâches de pick and place, c'est-à-dire de placement, déplacement, c'est-à-dire que c'est un bras manipulateur qui bouge des charges. Là ici c'est des faisselles, hein, c'est dans l'industrie agroalimentaire. Là c'est des tâches de soudure à l'arc, dans une automobile. Là c'est de la découpe assistée vision, là on coupe des carcasses de porc en deux. Là c'est de la soudure, là c'est de la peinture. Là, c'est ce qu'on appelle de la palettisation, c'est-à-dire que le robot est en train de monter des palettes, il prend des colis, puis il fabrique une palette. Et puis là, c'est de la découpe. Vous voyez, donc aujourd'hui, les robots, ils sont en environnement industriel, ils sont implantés. Par contre, ces robots-là, c'est des robots qui sont utilisés pourquoi ? Pour des tâches répétitives, on a une qualité constante, pour produire des lots de dimension moyenne, généralement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir facilement s'adapter au volume de la production. On n'a pas des temps de cycle. On a des temps de cycle quand même qui sont relativement élevés avec ce type de robot. Ça va permettre aussi d'éviter ce qui existait beaucoup dans l'industrie automobile il y a 20 ans, c'est-à-dire les opérateurs manuels qui avaient des TMS. Après, pour certains, 18 mois, on clipsait, moi j'ai vu ça dans l'automobile, les plastiques de porte au poignet. Le mec, quand il avait fait 2 ans à faire ce travail-là, il n'avait plus de poignet. C'était TMS. Donc c'est vrai que les robots aujourd'hui, il n'y a plus aucun opérateur qui fait ce type de tâche aujourd'hui. Puis là, à l'époque, on usait beaucoup de personnel contractuel. Donc là, aujourd'hui, la robotique s'est substituée à l'homme. Ce qui fait que quand vous allez en environnement industriel aujourd'hui, bah, les robots font tous ces travaux pénibles. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'est la robotique aujourd'hui et de ce qu'elle va devenir. La robotique, là, c'est les robots SWORD de déminage en Afghanistan. Donc, on a de la robotique militaire, robotique scientifique. Ça, je parlerai un petit peu de ça tout à l'heure, parce que je suis dans un projet là où on est en train de faire une main marinisée avec une équipe qui est passée à Thalassa il n'y a pas longtemps. Donc, robotique scientifique, c'est l'exploration de la planète Mars. Ça va être de l'inspection, ça va être de l'archéologie sous-marine. Robotique domestique, vous avez maintenant vos petites tondeuses à gazon autonome à la maison. Vous avez peut-être des petits animaux de compagnie. Ça, les Japonais en sont très friands. C'est le petit chien Hibo que vous connaissez tous. Le petit Nao d'Aldébaran. Il y a un livre de Rodolphe Gélin, j'ai vu, qui est sur la table. Donc Rodolphe Gélin, c'est un ancien ingénieur CEA qui travaille chez Aldébaran aujourd'hui et qui était l'ingénieur un peu chargé d'affaires chez Aldébaran et qui s'occupe un petit peu de la distribution de ce petit robot chez Aldébaran. Lui, il est utilisé aussi beaucoup pour faire l'interaction avec les enfants autistes. Donc c'est vrai que c'est des robots qui trouvent un champ applicatif aussi intéressant. Vous pouvez vous dire, bah mince, c'est un jouet. Mais c'est un jouet aujourd'hui qui permet de faire de l'interaction là où l'interaction parfois humain est compliquée. Ça, c'est le robot Pepper. Donc ça, c'est le robot qui est développé aussi par Aldébaran aujourd'hui pour demain être votre robot assistant. Alors ça peut être dans un contexte comme le contexte Mendes France, mais pourquoi pas demain à domicile pour assister des personnes âgées dans leurs travaux quotidiens. Donc voilà un petit peu les champs d'investigation, robotique médicale. Là, vous avez le fauteuil certainement roulant de demain, hein, l'exosquelette, hein, qui va permettre à des tétraplégiques, des hémiplégiques au moins, de pouvoir remarcher. Donc fauteuil roulant peut-être de demain. Un champ que je vais vous présenter tout à l'heure sur lequel on travaille, nous, qui est le champ applicatif médical. On développe des robots pour assister le geste du chirurgien, pour faire de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire pour venir vous opérer. Donc ça, c'est le robot Vinci, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, robotique de transport. Hein, aujourd'hui, avec les drones, il y a pas mal de projets en cours. Nous, on travaille aussi un petit peu sur ces aspects-là pour demain vous amener vos colis avec des drones à la maison ou encore la Google Care. Alors là, il y a beaucoup de projets. Même Apple, aujourd'hui, s'y met. Il y a eu des fuites, je crois, en début de semaine, justement, où on est en train de... où chaque, je dirais... grand acteur du numérique et beaucoup de gens qui font du développement logiciel parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les industriels d'automobiles classiques qui sont les mieux placés pour développer les véhicules du futur. Parce que les véhicules du futur, aujourd'hui, avant d'être de la mécanique, c'est aussi beaucoup de soft. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une concurrence en termes de développement de véhicules du futur entre les acteurs de l'automobile classique et les grands du génie logiciel. Donc voilà un petit peu... ce qu'on fait. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait aussi, nous, dans ce contexte-là. Je vais aborder, moi, ce matin, donc nous, aujourd'hui, on travaille au niveau de l'équipe sur de la robotique et de la biomécanique. Ça va au niveau de Tammy, je fais gaffe, parce que... 20 minutes, ça va, j'ai encore 20 minutes. Bon, je vais essayer d'aller vite. Donc, on fait de l'appréhension, manipulation d'extra, et moi, je vais vous parler de conception optimale. Donc, je vais vous parler de ces deux thèmes-là, ce matin. Ces trois thèmes-là, je reviendrai vous voir... Donc nous, ça nous donne aujourd'hui ces cinq thèmes de recherche, un positionnement unique au niveau national, et puis surtout une capacité, parce qu'on développe des démonstrateurs, une capacité à valoriser nos approches théoriques sur les dispositifs mécaniques développés. Moi, j'ai coutume de dire que dans l'équipe, on fait quoi ? On développe des robots et on développe de l'intelligence pour robots. Développer des robots, c'est faire de la mécatronique, et puis développer de l'intelligence pour robots, c'est développer du logiciel. Donc on fait les deux. Donc ce qui nous intéresse, c'est de valoriser aussi, dans le développement logiciel, les approches théoriques dont je parle, qu'on va pouvoir tester sur de vrais démonstrateurs. Et donc pour ça, on a aujourd'hui deux plateformes technologiques qui sont référencées. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu robotique collaborative. Un robot collaboratif, c'est quoi ? C'est un robot qui va pouvoir venir au contact avec l'humain. C'est-à-dire que ce robot, on l'appelle aujourd'hui plus robot collaboratif, on l'appelle cobot. Aujourd'hui, vous allez entendre parler beaucoup de cobot. C'est quoi un cobot ? Un cobot, ça devient un partenaire. C'est-à-dire que c'est votre collaborateur, c'est pas un concurrent le robot. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu ces petites photos. Vous voyez un petit peu, tout est dit. Là, vous avez le petit robot Roméo d'Aldébaran. Là, vous avez d'un côté les stations de travail manuelles. L'humain travaille tout seul. Vous avez la station de travail automatique. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le cobot, il va permettre à un humain et à la machine de collaborer. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de combiner à la fois les capacités de l'homme et du robot. On va avoir la dextérité de l'homme, sa flexibilité, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à la résolution de problèmes. Là, l'humain est quand même beaucoup plus fort que la machine. Par contre, vous allez récupérer l'endurance du robot, sa force et surtout sa précision. Si vous combinez les deux, vous avez intérêt demain à utiliser des robots collaboratifs. C'est-à-dire que j'avais mis une petite photo, ce qui était historiquement dans les usines. Vous voyez, dans les usines, aujourd'hui, vous allez aux fonderies du Poitou, il y a eu un accident malheureusement il n'y a pas longtemps. Bah, les robots, ils sont en cage. C'est-à-dire que le robot, il travaille à pleine puissance, pleine vitesse, dans une cellule fermée. Il ne faut surtout pas que l'opérateur rentre dans la cellule. Hein, c'est des robots forte charge, hein, 250, 500 kg à pleine dynamique. Hein, ils vous transpercent. C'est ce qui est arrivé à l'opérateur aux fonderies. Hein, il s'est fait plaquer contre le mur. Il n'aurait jamais dû rentrer dans la cellule. Ce qui s'est passé, c'est surtout qu'il est rentré dans la cellule. Quand on ouvre la porte, ça coupe l'arrêt d'urgence. Sauf qu'il y a un opérateur qui est passé derrière. Il n'a pas vu que son collègue était dans la cellule. Il a fermé la porte. Le robot s'est remis en route. Donc ça, c'est voilà. Donc les robots aujourd'hui, en environnement industriel, ils sont dangereux. Donc l'idée aujourd'hui avec les robots collaboratifs, c'est d'avoir des robots avec des efforts et des puissances limitées. Alors là, je vous ai mis aujourd'hui, bah, ils étaient tous à la robotique day hier, hein, ces petits robots là à Nantes. Le Baxter, donc là, c'est du robot, c'est du petit robot industriel, pas très robuste, c'est sympa, ça fait beaucoup parler. Un petit robot qui est développé par Kawada. Aujourd'hui, un cobot qui est vraiment performant, c'est celui-ci, là, c'est l'Iwa, qui est développé par Kuka. Vous le voyez ça pas mal à la télévision. Ça, c'est un robot mobile, qui est le PR2, qui est développé par Willow Garage. C'est une plateforme mobile avec des pinces. Bon, ça va permettre d'avoir un robot assistant, comme le Pepper que je vous ai montré tout à l'heure. Il commence à être un peu vieux, lui, maintenant. Bon, on en parle beaucoup encore. Ça, c'est l'Universal Robot. Bon, aujourd'hui, les robots qui font le plus parler d'eux, c'est l'Iwa, ici. L'universal robot, donc c'est des bras qui vont être capables de mesurer les efforts d'interaction avec l'environnement et donc de fait qui seront non dangereux pour l'homme. Bon, ils vous mettent des petites claques de 15 kilos hein, quand même, hein. Ça peut faire mal. Et puis après, vous avez ces petits robots assistants bon, qui vont peut-être être demain vos assistants dans une dizaine d'années, dans une quinzaine d'années, on parlait des téléphones portables, peut-être dans 20 ans. Ça, c'est un système, nous on est plutôt sur ce genre d'approche-là, c'est un système qui est développé par le DLR, c'est un peu la Rolls de la main robotique et la Rolls du bras robotique aujourd'hui. Donc on travaille un peu avec ces aspects-là, les collègues du DLR, on les connaît, on les a vus l'année dernière, ils sont venus au laboratoire, on collabore un peu avec eux sur ces aspects-là. Et puis là, il y a un autre robot qui est sympa, c'est un petit robot bi-bras, il est capable uniquement de porter une charge de 300 grammes, c'est le petit robot qui s'appelle Yumi. Yumi, c'est la contraction de you and me, quoi, bien sûr. Et bon, c'est un petit robot à deux bras qui va pouvoir travailler avec vous en toute sécurité. Donc voilà un petit peu demain ce sur quoi on développe. Par contre, la problématique aujourd'hui, c'est pour que le robot puisse interagir avec l'environnement, le problème c'est que pour interagir avec l'environnement, aujourd'hui on n'a pas le choix. Soit vous avez des préhenseurs industriels, des pinces, soit vous avez des mains à haut niveau de dextérité extrêmement complexe. Ça c'est des mains qui coûtent entre 100 et 150 000 euros. Et ben le problème aujourd'hui, c'est que ces cobots, si vous voulez qu'ils puissent rentrer en environnement sociétal, il faut les doter de mains qui vont leur permettre de saisir n'importe quel type d'objet et surtout de manipuler les objets. Donc nous, aujourd'hui, pour augmenter la dextérité de ces cobots, ces assistants robotiques, on développe des mains robotiques. On est les seuls sur la scène nationale aujourd'hui, on est reconnus à ce niveau-là, à développer des mains. Donc là, je vous avais mis simplement un petit extrait, c'est une roadmap qui explique pourquoi il faut développer des mains. C'est la Chambre du commerce aux États-Unis qui a écrit ça. Alors aujourd'hui, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les mains robotiques. Bah, les mains robotiques, il y a des mains assez simples, à 40 000 euros hein, quand même, la main bibionique. Là, je fais une journée technique au laboratoire, bibionique reviendra encore au mois de novembre, plutôt pour des scientifiques du domaine, mais si vous êtes intéressé, il y aura des démos aussi avec cette main. Là, j'ai quelques vidéos sur mon disque dur. Donc ça, c'est des mains qui sont utilisées pour le handicap, préhenseur. Bon, là, on a des mains qui font uniquement de la saisie, qui sont intéressantes, mais qui ne permettent pas de manipuler l'intérieur de la main. Et puis, plus vous allez croître ici, plus vous allez augmenter la complexité, la capacité de la main à s'adapter pour arriver à des mains qui ont des caractéristiques, des potentiels de manipulation comparables à la main humaine. C'est ce sur quoi on travaille, nous. Donc aujourd'hui, bah, y a des préhenseurs industriels, ce que je viens de dire, qui ont moins de 3 doigts, qui manque de flexibilité avec un design rudimentaire. Il y a des mains académiques qui sont difficiles à sortir des laboratoires parce que trop complexes à mettre en œuvre, avec une grande flexibilité. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, là vous avez deux de nos robots, avec deux types de mains. Une main qui va permettre la saisie adaptative avec n'importe quel type d'objet. Et puis là, la Rolls de la main qu'on a développée, on a un brevet CNRS, je vous l'avais montré en vidéo tout à l'heure. Où on va pouvoir reproduire la dextérité de la main homme, c'est-à-dire saisir un objet, s'adapter à l'objet et surtout le manipuler à l'intérieur de la main. Voilà un petit peu ce sur quoi on travaille. Donc si vous prenez ces mains, vous les mettez sur les assistants robotiques de demain, vous allez pouvoir avoir un assistant qui va s'adapter à son environnement et pouvoir interagir de manière naturelle avec l'humain. Ça, c'est une petite cartographie un petit peu de ce qu'on développe. On est visible, on est des acteurs aujourd'hui où on a acquis cette reconnaissance. La main qu'on a développée ici, qui est une main qu'on a développée. Moi, j'ai fait mes travaux de thèse il y a plus de 15 ans maintenant là-dessus, bientôt 20. C'est une main qui était parmi les 100 faits marquants du CNRS et qui a été à l'exposition universelle de Hanovre en l'an 2000. Donc, c'est la première main française à faire de la manipulation et celle qu'on développe aujourd'hui, qui fait l'objet d'un brevet CNRS. Alors, juste pour le fun, je vous montre un petit peu. Donc la main qui est en train de travailler. Donc on fait de la saisie adaptative. Là, j'ai entraîné ma main avec des techniques de l'IA. J'utilise des réseaux de neurones et j'ai appris à la main à serrer plus ou moins fort les objets. Et là, vous voyez, donc, la main régule l'effort d'interaction entre mon doigt et le doigt de la main mécanique, naturellement. Donc c'est une main qui est capable de sentir les efforts d'interaction. Et puis là, je vais être capable de faire de la saisie adaptative. Je vais prendre un objet et puis je vais surtout pouvoir garantir la stabilité de l'objet saisi. On utilise des algorithmes qui vont permettre de calculer automatiquement les efforts de serrage. Et surtout, vous voyez, si j'applique des efforts externes, je viens perturber la prise, la main serre plus fort pour maintenir l'effort d'interaction constant et surtout éviter que la canette tombe par terre. Donc vous voyez un petit peu les enjeux. Hein. L'idée, c'est que si vous servez à boire à quelqu'un, c'est quand même que vous assuriez et garantissiez la saisie de la prise. Donc, cette main-là, elle avait beaucoup de défauts. Je ne vous les ai pas montrés, j'aurais pu vous les montrer. Elle avait beaucoup de défauts. La main de Shadow qui coûte 120 000 euros, là, elle a les mêmes défauts. Et c'est pour ça qu'on a développé une nouvelle main. Ça, c'est une main que j'ai développée avec des collègues du CEA List dans le cadre d'un projet qui s'appelle Habilis. Donc là, c'est une petite démo que j'avais fait pour le salon industrie à Villepinte sur le stand du CEA, du CEA CETIM. Bon, ça, c'est une main qui est sympa, qui fait de la saisie adaptative, mais qui ne permet pas de manipuler l'objet à l'intérieur de la main. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai saisi l'objet, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas manipuler l'objet, je ne peux pas imposer un mouvement à l'objet saisi. Ce qui fait que voilà, on a développé une nouvelle main en 2014 qui a fait l'objet d'un brevet. Cette main-là, tous les mouvements sont découplés, on a 16 articulations. En fait, le cœur de la main, c'est le doigt. C'est-à-dire qu'à la limite, je peux faire 5 doigts, je peux faire 3 doigts, et je peux surtout avoir 4 actionneurs par doigt, voire 5, voire 6, et je peux en avoir moins. C'est-à-dire que je vais pouvoir, grâce à cette main, reproduire vraiment les mobilités de la main humaine. C'est une main qui est à dimension anthropomorphe, hein, vous le voyez. En fait, la partie qui nous intéresse, c'est la partie du dessus. Donc vous voyez, le doigt, il est à dimension quasi humaine. C'est très complexe à mettre en œuvre, parce qu'en fait, un doigt, c'est un robot industriel, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez 4 doigts, vous avez 4 robots, en fait. Ça, c'est ce... Et quand vous manipulez un objet, vous êtes en train de faire de la robotique collaborative, parce que les 4 doigts, les 4 robots coopèrent ensemble, en fait. Donc, on fait de la robotique collaborative depuis le début des années 80 à Poitiers, en fait, sans le savoir. Si, on le savait déjà, quand même. Donc, voilà un petit peu les algorithmes qu'on développe. C'est-à-dire qu'on va aussi planifier le mouvement d'objets. On va être capable de calculer hors ligne les efforts de serrage. On va être capable de proposer une stratégie complète. Ça, c'est des développements que j'ai fait avec des collègues qui travaillent dans les neurosciences, qui font de l'expérimentation animale sur le chimpanzé pour essayer de voir un petit peu comment se comporte le contrôle sensorimoteur chez l'humain. Ils ont développé des algorithmes. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que avec les collègues de neurosciences, on a mixé des approches qui étaient des approches purement planifiées de la robotique, purement numériques, purement calculatoires, utilisant l'outil mathématique, utilisant les outils de la robotique. On les a comparés avec des modèles par apprentissage, exploitant les datas mesurées chez le chimpanzé. C'était vraiment sympa parce que ça a permis en fait, de résoudre le problème d'atteinte et de la saisie d'un objet. Ça vous dites, mais c'est hyper simple d'aller saisir un objet, parce que vous ne réfléchissez pas, l'apprentissage est passé par là. C'est hyper complexe parce qu'en fait, il faut d'abord amener le bras en configuration et après saisir l'objet. Mais comment j'amène le bras, comment j'amène la main en configuration, ça, c'est des problématiques qui sont complexes. Et ça, on l'a résolu en fusionnant nos approches. Quoi. Donc ça, c'était un des résultats intéressants de notre projet. Donc je vous montre des manipulations fines. Vous voyez, donc là, les 3 doigts sont en train de coopérer. Bon, ça fait un robot qui est un peu cher pour changer les ampoules à la maison, mais ça, c'est simplement une vidéo qui était assez intéressante parce que pour faire ce mouvement-là, il y a très très peu de mains qui sont capables de le faire parce que je suis obligé d'avoir en fait ce qu'on appelle le mouvement d'abduction-adduction des doigts simultané, plus le mouvement de flexion-extension. Ça, c'est des mouvements qui sont couplés et qui sont difficiles à découpler sur le plan de la commande. Aucune main aujourd'hui n'est capable de faire ça proprement, à part la main du DLR que vous avez vu tout à l'heure, qui est la main qui est développée par le Centre Aérospatial Allemand. Et la main qu'on vient de développer est capable de faire ça. Donc, simplement pour vous dire, aujourd'hui, on fait partie d'un réseau. Les 15 labos CNRS en robotique en France se sont réunis dans un réseau de plateformes. Et ça, c'était un projet lié au grand emprunt qui s'appelait le projet EquipeX Robotex. Donc on fait partie, on s'est organisé, on s'est structuré en un réseau de plateformes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le laboratoire, on a d'une part une plateforme d'analyse du mouvement qui va nous permettre d'expertiser le mouvement humain. Une application, je vais vous montrer une petite vidéo là rapide. J'essaye de ne pas trop déborder, je vais directement aller au but. Je crois que c'est... Ouais, ça doit être là. On passe... C'est pas bien, j'ai même pas pris le temps de couper les vidéos, j'ai fait de l'assemblage hier soir. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on va faire, vous voyez, c'est que cette plateforme d'analyse du mouvement. On va l'exploiter. Je vais enregistrer le mouvement de l'opérateur humain. L'opérateur humain, là, il va jouer à Dark Vador avec son sabre. Donc, il va faire un mouvement et puis le robot va le reproduire en live directement. Vous voyez, donc on va pouvoir aussi faire ce qu'on appelle du biomimétisme. On va pouvoir enregistrer des mouvements chez l'opérateur humain et on va pouvoir faire en sorte que le robot les recopie. Bon, j'avance peut-être un petit peu. Vous allez voir l'animateur là, de l'émission. Vous voyez, donc... Ah ben, j'étais trop vite. Bon, ben non, alors, j'ai laissé passer. Vite fait. Donc, vous voyez, il a mis une combinaison. Il y a des marqueurs sur le bras de l'humain. Vous avez vu, il y a des marqueurs. Il y a des caméras, là, ici, qui sont des caméras qui vont capter la position spatiale des marqueurs. De cette façon-là, on va pouvoir enregistrer le mouvement de l'opérateur humain, ce qu'utilisait aussi beaucoup au cinéma, hein, actuellement. Donc là, on enregistre le mouvement de l'animateur. Et puis derrière, ce mouvement-là... On fait ce qu'on appelle un post-traitement, vous voyez. Donc là, on va reconstruire la cinématique du bras et puis on va reconstruire la cinématique complète. Et puis cette cinématique-là, on va pouvoir la transposer, la mapper. On parle de mapping. On va la mapper sur le bras robotique pour que le bras robotique reproduise le mouvement. Alors, on ne procède pas comme ça habituellement, mais c'est des choses qu'on est en train de faire justement pour essayer d'humaniser un peu le comportement des robots. Alors, là, on a aussi une plateforme, donc, vous voyez, avec des robots collaboratifs, des robots industriels, des robots équipés de main. Vous avez vu deux photos tout à l'heure. Ça, c'est une collaboration, par exemple, qu'on a vue avec une société. Cette plateforme, elle nous sert à faire du transfert aujourd'hui. Donc, on collabore avec un certain nombre de partenaires industriels et on transfère un certain nombre de compétences. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un robot industriel et on a permis à cet industriel, là, qui s'appelait Ideatech, de lui apporter une solution innovante pour faire du tri de pièces. Ça se fait habituellement avec des bols vibrants et là aujourd'hui il a introduit la robotique dans son process, ce qui fait qu'il a récupéré maintenant des clients grands comptes comme Dior pour pouvoir faire du tri de pièces en environnement de production sur des flacons de parfum. Transfert de compétences, aujourd'hui on est en train aussi de développer à travers le CRIT une espèce d'approche en fait importante, uniformisée, qui va permettre, grâce à un environnement SAO qu'on développe entièrement au sein de l'équipe, de piloter des robots dans un environnement complètement hétérogène. Parce que là, pour la petite anecdote, vous avez ici des robots de marque Stobli, des robots de marque KUKA, des robots de marque Epson. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que chaque robot a son langage propriétaire. Et que si vous voulez faire cohabiter dans le même environnement des robots de nature différente, aujourd'hui, c'est impossible. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est de développer une interface un peu universelle qui va permettre, dans un environnement fortement hétérogène, de faire ce qu'on appelle de la programmation intuitive. Pour un technicien, je dirais, et plus pour un ingénieur. Donc voilà ce qu'on est en train de faire dans le cadre de cette thèse en financement CIFRE avec le CRIT informatique. Ça, c'est un projet qui vient d'être accepté cet été, là, que j'ai monté avec des collègues du LIR, mais surtout avec le ministère de la Culture, en l'occurrence le DRASM, c'est la Direction des Recherches Archéologiques Sous-Marines. Ils sont passés à Thalassa il y a quelques mois, eux. Donc là, le bateau, c'est l'André Malraux. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a 20 000 épaves sur le littoral français, qui sont entre 200 et 2000 mètres de profondeur. Et l'idée, c'est d'aller explorer ces épaves et surtout de ramener les objets d'une valeur inestimable qui sont en grand fond. Le problème aujourd'hui, donc moi, comment on est arrivé là? C'est qu'en fait, moi, j'ai rencontré ces personnes il y a 2 ans dans une conf où je présentais un peu nos travaux. Et leur problématique, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, ils cassent des assiettes, ils cassent des amphores, parce que en fait, le préhenseur, qui est une vulgaire pince, qui est sur un petit rove, ici, c'est ce qu'on appelle un rove, un petit sous-marin qui descend, vous voyez, qui va avoir une pince, aujourd'hui, ils cassent des assiettes, ils cassent des amphores. Donc le projet qu'on va faire ensemble pendant 4 ans, c'est qu'on va développer une main avec un retour d'effort, et l'opérateur qui sera sur le bateau à la surface, avec une caméra, bien sûr, un éclairage, va pouvoir, avec ce qu'on appelle une interface haptique, un joystick évolué, avoir un retour d'effort et saisir, en sentant l'effort qu'il applique sur les objets, objets qui seront à 2000 mètres de fond, sentir l'effort et surtout le ramener à la surface. Voilà un petit peu ce qu'on va faire pendant 4 ans dans le contexte de ce projet-là. Donc on va capitaliser notre savoir-faire. Là, Bicomd, c'est une société qui développe des petits rêves, et puis la SIT, c'est une société avec laquelle on travaille déjà depuis quelques années, où ils font des télémanipulateurs dans le nucléaire. On a déjà travaillé avec eux sur le développement de plateformes mobiles pour aller justement fabriquer des robots qui vont intervenir en milieu hostile. Donc là, j'ai des petites vidéos. Bon, j'ai encore 5 minutes ? Allez, 5 minutes. Je travaille sur des aspects qui sont intéressants. On parlait de sciences cognitives aujourd'hui pour faire en sorte de prendre en compte la perception que l'humain a de la machine, mais on ne peut pas bien sûr négliger certains aspects. On travaille avec Cédric Bouquet du CERCAL, le centre d'apprentissage sur la cognition et l'apprentissage à Poitiers, donc un collègue qui est dans les SHS, dans les sciences humaines et sociales, côté psycho, sciences cognitives. On travaille sur Qu'est-ce que interagir avec autrui ? Ben, interagir avec autrui, c'est quoi ? C'est percevoir ses actions, c'est prendre en compte ses intentions et possibilités d'action. Ça nous a amené à nous intéresser aussi à une problématique, le concept de vallée de l'étrange. On se rend compte en fait que les robots, jusqu'à un certain niveau, à partir du robot industriel jusqu'au robot humanoïde, vous voyez ici, c'est la courbe d'acceptation. Donc là, ici, jusqu'à un certain niveau de ressemblance entre le robot et l'humain, l'humain accepte le robot. Et puis quand on commence à avoir, vous avez vu la série Real Humans, peut-être, bah, quand on a un niveau de ressemblance qui est trop important, bah, le niveau d'acceptation chute, mais de manière exponentielle. Donc là, on travaille sur ces aspects-là avec Cédric, c'est comment justement prendre en compte cette problématique de vallée d'étrange. On parle aussi comment la prendre en compte pour justement designer le robot et puis proposer justement un design optimal au regard de ce que l'humain est capable d'accepter. Donc ça, c'est vraiment des problématiques intéressantes. On travaille aussi sur ce qu'on appelle l'effet Simon social. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut exploiter ce qu'on appelle la résonance motrice, c'est-à-dire comment l'action que je suis en train de produire peut impacter l'action du coacteur. C'est-à-dire le coacteur, ça peut être un humain. C'est-à-dire que le robot fait une action et comment l'humain va raisonner par rapport à cette action. Donc ça, c'est des problématiques qu'on a commencé à explorer avec Cédric. Donc là, j'ai des robots en ce moment, des exosquelettes au CERCA, et il y a des manips qui sont faites sur l'humain, en interaction avec le robot, pour mesurer justement ce qu'on appelle cet effet Simon. On a déjà des résultats intéressants, on a une publi qui vient de sortir sur ces aspects-là. Donc voilà un petit peu. Je vais zapper la partie médicale, je vais vous montrer un petit film pour clôturer, si vous voulez bien. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait en médical avec un simple petit film. Je vais aller directement à l'essentiel. Alors aujourd'hui, on fait de la conception de robots. Vous avez vu, on a conçu des mains. Pour concevoir, on travaille sur deux champs d'investigation. On travaille sur la télécographie. On a développé une sonde de télécographie avec des collègues de Bourges. Donc vous voyez, là, le chirurgien actuellement, il travaille comme ça. Chirurgie mini-invasive. On a un trocar, deux trocars. On passe les instruments à travers les trocars. On a un retour caméra que vous avez vu dans le coin. Donc là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on développe un robot qui va permettre de sécuriser ce qu'est en train de faire Jérôme. On va développer un robot d'assistance au geste chirurgical. Ça, c'est l'interface haptique avec le retour d'effort qui va permettre d'interagir avec le robot distant qui est au-dessus du patient. Donc on va optimiser la conception, on va utiliser des algorithmes qui vont faire en sorte de maximiser la dextérité, s'éloigner des singularités. Donc là, il y a bien sûr les outils du roboticien. Et voilà le robot final aujourd'hui qui a été développé. L'interface haptique à retour d'effort et le bras qui est en train de réagir. Bien sûr, pour une opération, on a deux bras. Si vous faites une anastomose artère, il y a bien sûr une pince qui tient l'aiguille et puis l'autre pince qui tient la pince, bien sûr. Vous voyez, donc l'anastomose artère, la voilà en train de se réaliser par le praticien et c'est ce que le robot derrière va réaliser. Donc voilà un petit peu. Simplement pour terminer. Allez, pour terminer, peut-être. Et ça, c'est ce qu'on a fait hier encore à Nantes. Donc ça, c'était une petite appli qu'on avait développée pour le parc du Futuroscope il y a quelques temps. Robot artiste. Donc je vous ai mis notre président de région, notre ancienne présidente de région. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu long. Voilà.
C'est la règle du jeu de la journée, c'est un peu stressant pour tout le monde et contraignant. Donc voilà, je salue donc les personnes qui nous ont rejointes. Si vous avez quelques questions ou des réflexions par rapport à ce que M. Gazon nous a présenté. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de robots. Moi-même, j'ai suivi la série Real Human et depuis, j'essaie de voir un petit peu.
Voilà. J'essaie de ne pas employer trop de gros mots. Voilà. J'ai enlevé toutes les choses qui fâchent.
Oui,
ça, c'est un robot portraitiste, hein, on est vraiment dans l'événementiel. Hein, c'est un robot qui dessine le portrait d'un visiteur en moins de 5 minutes, à la manière d'un portraitiste à Montmartre. Juste pour la petite histoire, ce que je demande souvent aux visiteurs quand on fait cette présentation, c'est l'image originale. Il y a une des deux images là, qui a été faite par un artiste professionnel et l'autre qui a été faite par le robot, c'est laquelle est celle qui est faite par... C'était une des demandes des responsables artistiques du parc. Donc là, l'idée, c'est aussi d'essayer de bluffer l'humain, de lui laisser penser que ce dessin-là a pu être réalisé par un humain. Quand je parle d'intelligence pour robots, c'est aussi ça, c'est essayer avec de l'algorithmique, avec des approches algorithmiques intéressantes, de pouvoir permettre au robot de s'adapter à son environnement et surtout d'essayer de bluffer l'humain. Voilà un petit peu. Voilà. Merci de votre attention en tout cas.
Voilà, donc on va poursuivre la programmation de la journée avec une petite pause qu'on a baptisée interlude. Voilà, et je demande à Françoise de nous rejoindre. Merci Françoise.
Je voulais remercier Christine, Guiton et, excusez-moi, j'ai un rhume, alors j'ai une voix un peu couverte, et Bruno Essar Budaille, qui est du Centre Régional du Livre, et qui m'ont invité à faire un interlude. Alors je ne peux pas m'empêcher de réagir un tout petit peu après ce que je viens de voir. Je ne vais pas lire des textes sur les robots, parce que ça va être plutôt cet après-midi, liés à des textes pour enfants. Parce que les textes pour adultes, c'est Bernanos, il y a Jules Verne, il y a Orwell, et c'est des textes que vous connaissez déjà. Et moi, j'ai voulu vous parler de deux livres pour lesquels j'ai eu un coup de cœur. Et donc, je vais vous présenter le premier. Mais ça ne parle pas de robots. Alors, il y en a même trois. Il y a une méditation sur la beauté de François Cheng. J'ai envie de dire quelques mots juste après votre très belle conférence de lui. En ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître incongru, inconvenant, voire provocateur. Presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadée que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant, d'un côté le mal, de l'autre la beauté. S'il vous plaît, il ne s'agit pas pour moi de dire que les robots sont le mal. Voilà, mais je voulais vous parler de la beauté. J'ai oublié de me présenter parce que je suis quelqu'un qui travaille avec les livres, avec les mots. Je suis comédienne, je ne suis pas du tout dans la science. Alors, c'est l'autre livre dont je voulais vous parler. C'est « L'incroyable bestiaire » de Monsieur Anderson. C'est quelqu'un qui... je vais lire et puis vous me poserez des questions après. C'est un très, très beau, une très belle interrogation sur le progrès, l'humain, l'animal. C'est une réponse par rapport aux robots. Mais je vous répète, donc, cet après-midi, il y aura plus des textes liés aux robots, mais liés à l'enfance. Il y a quelques années... Par un bel après-midi d'été, ma femme et moi pique-niquions avec notre petite fille qui venait de naître. L'air était si pur que tout semblait se présenter sous une forme hyper réelle. Nous étions assis au bord d'un bruissant cours d'eau. L'herbe brillait au soleil. Rassasiée, notre petite fille s'est endormie. J'ai pioché dans le sac de livres, de magazines et de journaux que j'avais l'habitude d'emporter avec moi. Je vous parle d'une époque qui ne connaissait pas encore les tablettes. J'avais emporté un exemplaire du livre des êtres imaginaires de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, Un bestiaire, publié en 67. Je l'avais feuilleté une vingtaine d'années auparavant sans y prêter une grande attention, mais ce jour-là, dès que j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'en détacher. Dans le livre des êtres imaginaires, Borges décrit la Baoaku, une créature ressemblant un peu à un calamar ou à une seiche qui ne bouge que lorsqu'un humain pénètre dans la tour sombre qu'elle habite, dans l'intention de tenter la difficile ascension jusqu'au sommet. Là-bas, Oako jouit d'une vie consciente seulement quand quelqu'un monte l'escalier. La vibration de la personne qui s'approche lui infuse la vie et une lumière intérieure s'insinue en lui. En même temps, son corps et sa peau presque translucides commencent à se mouvoir. Quand quelqu'un monte l'escalier, là-bas Oaku se place presque sous les talons du visiteur et monte en saisissant le bord des marches courbes et usées par les pieds des générations de pèlerins. À chaque marche, la couleur de là-bas Oaku s'intensifie. Sa forme se perfectionne et la lumière qu'il irradie est chaque fois plus brillante. La preuve de sa sensibilité réside dans le fait qu'il arrive à obtenir sa forme parfaite seulement à la dernière marche, quand celui qui monte est un être spirituellement évolué. On peut interpréter de maintes façons l'histoire de Borges ou ne pas l'interpréter du tout. Je dirais ici que c'est une allégorie. Et voici ce que je comprends. Si nous ne développons pas notre imagination pour mieux embrasser la réalité des êtres et des vies qui diffèrent de la nôtre, nous manquons à notre devoir. Ça va pour vous? Oui? Je continue? Ça va, Bruno? En 2008, probablement pour la première fois depuis le XVIe siècle, pas une seule baleine franche de l'Atlantique Nord n'a péri de la main de l'homme. New York Times, le 16 mars 2009. Il y a quelques années, à bord d'un petit bateau, j'ai eu la chance de me rendre dans le Svalbard, l'archipel arctique. La beauté des rochers, des glaciers, des oiseaux et des animaux était saisissante et d'autant plus poignante quand l'on savait ce qui semblait éternel menacé par le réchauffement global de la planète. Mais les choses qui me frappèrent le plus étaient celles que nous ne pouvions voir. Un soir, un musicien qui était à bord posa un micro sous-marin pour écouter ce qui se passait sous les vagues. Il enregistra une série de longs sifflements, d'abord haut perché, puis descendant graduellement, de plus en plus lentement, toute la gamme. Le son avait quelque chose d'une flûte de jazz, mais plus riche et plus doux, en suspension dans un monde au fond duquel, loin au-dessous des vagues et de la glace, on pouvait imaginer dans le lointain le froufrou des crustacés. Quand la mer est calme, les jeux de lumière à sa surface, sans cesse changeante, sont fascinants. Mais les sons des grands fonds ne le sont pas moins. Ils font apparaître l'espace invisible, un peu comme des gouttes de pluie sur les feuilles des forêts ou les sons d'une cloche d'une église résonnant dans une colline. Sur notre petit bateau, ces sifflements captivaient les yeux de l'esprit. Nous n'étions plus en train d'être ballottés sur d'inexorables eaux d'un gris d'acier. Nous étions à bord d'un vaisseau spatial dérivant au-dessus d'un monde caché. Les appels que nous avons entendus ce jour-là, d'une forme simple et invariable, étaient ceux d'un phoque. À l'époque, ils n'en parurent pas moins enchanteurs. Tous les êtres font de la musique avec leur vie. Je me suis rendu compte plus tard que ce qui était vraiment remarquable à ce moment précis, ce n'était pas la présence, mais l'absence. Il y a encore 200 ans, il y avait des milliers de baleines dans ces eaux. Et le cri d'un phoque, au lieu de résonner tout seul dans le vide, n'aurait été qu'à peine perceptible dans le concert de leurs chants et de leurs grognements.
C'est un lien.
Donc merci beaucoup à Françoise Lemeur. Donc effectivement, on n'a pas présenté parce que c'était toujours un peu la surprise. Donc Françoise Lemeur est comédienne et travaille avec le Théâtre du Diamant Noir. Et je sais que l'an passé, pour celles qui étaient déjà là, on avait eu l'occasion de l'entendre. Et suite à ses lectures qu'elle avait faites dans la journée de septembre, elle a eu l'occasion d'aller à Ruffec, à la Canopée, donner un spectacle, Graines de vie, hein, qui était en lien avec la thématique du vivant de la science se livre l'an passé, et qui a connu, je crois, un certain succès. Donc cette année, on a relancé un petit peu la belle histoire en espérant que la thématique sera aussi accrocheuse. Voilà, merci Françoise, on te retrouve bientôt. Et puis je vais appeler donc Jérôme Pacot qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour nous parler du boson de Higgs. Voilà, donc il va prendre le temps de s'installer. Donc on peut échanger, s'il y en a qui veulent, c'est pas encore la pause pour les voitures, là, de changer les... Bonjour, merci. Alors le boson de Higgs, moi-même je ne suis pas une spécialiste, on a entendu parler, mais je trouvais ça intéressant justement derrière ce mot magique un petit peu, d'essayer de comprendre. Alors j'ai demandé à Jérôme Pacot de faire simple, très simple, parce que ce n'est pas forcément facile comme exercice pour lui, d'essayer d'expliquer simplement quelque chose d'un peu complexe quand même. Voilà, donc Jérôme Pacot est maître de conférence en physique à l'université de Poitiers. Voilà, est-ce que la technique est au point ? Bon, la machine a besoin d'un petit temps. Voilà. Comme je vous ai dit, voilà, on continue un petit peu avec la physique, après la mécanique, la robotique, la physique. C'est vrai que c'est des thématiques qu'on n'a pas traitées jusqu'à présent dans le cadre de la science livre. Donc voilà, on va ouvrir un petit peu d'autres horizons. Hop. Donc, je vais en profiter le temps que la machine... Ah, voilà, ça va arriver. La science se livre, c'est comme les années précédentes. Donc, après la journée, on va vous distribuer dans vos dossiers. Vous avez vu la liste de différentes ressources, donc les expositions ou les animations, également les conférences qu'on peut vous proposer. Donc, je vous inviterai, comme les années précédentes, à faire votre choix si vous souhaitez faire quelque chose en 2016. Et il y aura la possibilité donc, de vous inscrire en ligne en allant sur le site de l'Espace Mendès France seulement à partir de lundi, parce que là, on a des petits soucis. Donc, voilà. Mais normalement, j'espère que le formulaire va pouvoir être en place. Et les inscriptions seront possibles jusqu'au 8 novembre. Donc, ça vous laisse un gros mois. Et comme les années précédentes, donc là, il s'agit des projets. Et après la date du 8 novembre, nous, en interne, on voit les possibilités. On essaie de satisfaire au mieux vos demandes d'exposition. Donc, surtout dans vos projets, là, lorsque vous allez vous inscrire, essayez de voir la période. Si vous souhaitez présenter une exposition, est-ce que ce serait plutôt en mars ou voilà, essayez de nous donner quelques indications pour que nous, on essaie d'après de satisfaire le maximum de vos demandes. Voilà, pour les animations, c'est pareil, les animateurs que vous allez retrouver tout à l'heure en fin de matinée m'ont demandé si vous pouviez donner deux ou trois dates, déjà, ça leur permettrait d'avancer plus rapidement. Et puis ensuite, donc, à partir des éléments d'information, je bâtis donc le programme et puis il y a des plaquettes, des affiches, des marque-pages qui seront diffusées à partir du mois de janvier. Voilà, c'est bon de votre côté. Voilà, donc mais je vais laisser la parole à Jérôme Pacot pour nous faire un petit tour en physique.
Merci, bonjour. Quand on m'a demandé quelle était la, a priori la découverte, l'avancée en physique de ces dernières années la plus marquante, j'ai réfléchi deux minutes. Et puis je me suis dit, bon, c'est la découverte du boson de Higgs. J'aurais dû réfléchir 4 minutes, parce que comme ça, j'aurais pu me rendre compte qu'en fait, c'est extrêmement compliqué à expliquer à des non-physiciens. Et peut-être je ne me serais pas engagé dans ce défi complètement farfelu d'essayer d'expliquer ce que c'est que le boson de Higgs. J'y suis allé récemment au congrès général de la Société française de physique, où il y avait justement beaucoup de conférences sur le boson de Higgs. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les meilleurs spécialistes français du boson de Higgs qui ont éclaté de rire quand j'aurais dit que j'allais faire une conférence grand public sur le boson de Higgs. Donc l'idée, elle est vraiment d'essayer de voilà, de donc je, y a, j'ai deux formules dans ma conférence. Donc essayer d'expliquer le boson de Higgs avec les mains, c'est extrêmement compliqué parce que c'est vraiment quelque chose de complètement barré. Donc je vais quand même essayer de relever ce défi. Donc pour commencer, je vais faire quelques rappels de physique. Donc ça, généralement, quand je dis ça, j'ai beaucoup de succès. La plupart des gens adorent la physique. Donc je vais faire quelques rappels de physique. Donc en physique, on étudie deux objets, deux types d'objets. Le premier objet qu'on étudie, c'est le champ. Alors le champ, c'est en gros, c'est quelque chose qui est un peu partout. C'est quelque chose qui n'a pas de position géométrique bien définie. Et puis c'est le champ, c'est un peu partout. Et puis le deuxième objet, c'est la particule. La particule, elle est quelque part, dans un endroit bien particulier. Donc vous voyez, la présence de la particule, elle est partout. Ça, c'est l'endroit où on regarde. Donc partout, elle n'est pas là. Et puis sauf un endroit où là, elle est là. Et puis, si je commence à zoomer ça, ben, vous voyez que va peut-être y avoir un moment où je vais me retrouver avec... ça va finir par s'élargir. L'idée générale, elle est que quand vous êtes rentré dans cette pièce, à un moment, vous étiez hors de la pièce, à un autre moment, vous étiez dans la pièce. Puis il y a eu un court moment où vous étiez à la fois pas dans la pièce et dans la pièce. D'accord ? Donc si je zoome sur ce moment-là, eh ben forcément, je ne sais pas trop où vous êtes. D'accord ? Et puis ça peut même durer ce moment, vous pouvez être dans un état d'équilibre. Vous avez pu remarquer que quand vous voulez rentrer dans une pièce, il y a toujours deux personnes en train de discuter sur le pas de la porte. Donc en fait, ces deux personnes sont dans un état d'équilibre. Elles ne sont pas dans la pièce, elles ne sont pas hors de la pièce, elles sont sur votre chemin. Donc elles sont quand même dans quelque part, d'accord ? Mais elles ne sont pas dans la pièce, etc. Donc du coup, vous voyez qu'au lieu d'avoir deux états, l'état, elle n'est pas là, la particule, ou l'état, elle est là, eh ben, vous avez elle est un peu là, peut-être là. Bon, en gros, quand même, elle est essentiellement là. Mais elle peut aussi être là, ou peut-être un peu plus loin, etc. Et donc ça fait que cette particule va se délocaliser, ne plus être à un endroit bien défini. Et ça, c'est la définition d'un champ. D'accord ? Donc cette particule, c'est devenu un champ. Okay ? C'est toute la base, si vous voulez, de la physique quantique. Voilà. Déjà, on a fait toute la base de la physique quantique. Vous voyez que c'est relativement sans douleur, quand même. Bon, alors il y a quelque chose que les physiciens aiment beaucoup, c'est la symétrie. On est des gens qui aiment l'harmonie, qui aiment le cosmos, donc on aime les symétries, les choses symétriques. Alors, la symétrie géométrique, bien sûr, hein, la main gauche qui ressemble à la main droite vue dans un miroir, choses comme ça, mais aussi toutes sortes de symétries. Dès que vous avez une propriété pour une particule donnée, eh bien, la particule vue dans un miroir, même un miroir complètement théorique, il faut qu'elle ait la même propriété ou la propriété inverse, mais en gros, il faut qu'elle ait une propriété qui est reliée à l'autre. Si elle n'a pas la propriété qui est reliée à l'autre, on appelle ça une brisure de symétrie. Et je vais beaucoup parler de brisure de symétrie dans la suite, mais enfin un peu parler de brisure de symétrie, mais pas trop quand même. Tout ça pour dire que si la particule se comporte de temps en temps comme un champ, je dois avoir un champ qui se comporte comme une particule. D'accord ? Sinon, je n'ai pas de symétrie, je n'ai pas d'harmonie, et le cosmos n'est pas aussi ordonné qu'il a l'air. Donc, la question, c'est comment je fais pour modéliser l'action d'un champ par une particule. Donc, je vais prendre un exemple complètement grotesque, qui est un exemple dans le cadre de l'astronomie. Alors, il est moyennement juste, cet exemple. Enfin, bon, il est assez représentatif. Donc, imaginons que j'ai une sonde, ça, c'est la sonde Cassini, que j'envoie du côté de Saturne et du côté de Jupiter. Et puis, vous savez, toutes les planètes, elles engendrent un champ de pesanteur autour d'elles qui fait qu'on est collé à la Terre et qu'on n'est pas en train de s'envoler vers ailleurs. Donc, elle a un champ de pesanteur, Saturne, et puis la sonde Cassini, elle va passer dans le champ de pesanteur. Là, c'est le pesanteur qui agit sur la sonde. La sonde va être attirée par Saturne, mais bon, elle va suffisamment vite. La sonde, elle rate Saturne, et puis elle va vers Jupiter. Ça, c'est une façon de voir les choses. C'est la façon du champ. Maintenant, je peux faire la même chose avec une particule. Donc j'ai ma sonde qui se promène tranquillement. Elle arrive près de Saturne. La Saturne voit la sonde. Elle envoie un truc. Paf, qui tape dans la sonde. Et la sonde, hop, repart vers Jupiter. Vous remarquerez que, en gros, à mes erreurs de dessin près, j'arrive dans la même direction. Je repars dans la même direction. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'il s'est passé... Il s'est passé un truc qu'a fait Saturne à cet endroit-là. D'accord ? Alors, c'est Saturne qui l'a fait, parce que c'est Saturne qui est là. D'accord ? Mais ça peut avoir été décrit soit par un champ, là, soit par une particule, là. D'accord ? Donc ça montre que, en fait, les interactions par champ, les interactions entre particules par champ, peuvent être décrites par un échange de particules entre les deux objets. Alors, je ne sais pas si vous allez me le dire, mais en tout cas, nous, les physiciens, on se dit, bon, d'accord, mais elle vient d'où, cette particule ? Parce que si à chaque fois que Saturne rencontre quelque chose, elle est obligée de balancer un morceau pour interagir, elle va finir par ne plus rien y avoir à Saturne. D'accord ? Donc, en fait, pas du tout. Cette particule n'est pas un morceau de Saturne. En fait, cette particule, elle a été fabriquée par Saturne et par la sonde Cassini, toutes les deux, d'accord, à partir de rien. Là, s'il y a un truc qu'on n'aime pas du tout avec les physiciens, c'est quand on commence à fabriquer des trucs à partir de rien. Ça, vraiment, on a horreur de ça. Ça s'appelle la conservation de l'énergie. C'est une loi absolument fondamentale dans l'univers, la conservation de l'énergie. Vous ne pouvez rien, vous devez absolument conserver l'énergie. Donc, comment s'y prennent Saturne et Cassini pour fabriquer une particule à partir de rien ? Eh bien, il suffit qu'elle ait une vie très courte. D'où vient cette particule ? Donc cette particule, elle est créée donc, par les deux particules en interaction, d'accord ? Et elle est créée à partir de l'énergie du vide. Donc ça viole évidemment la sacro-sainte loi de conservation de l'énergie, mais heureusement, Heisenberg, un physicien des années 20-30, a émis un principe qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. En gros, c'est quoi ? Vous avez ici un temps, ici vous avez une variation d'une énergie, disons, et ici vous avez un terme constant, ça c'est la constante de Planck, c'est la constante réduite de Planck, qui est très petite, ça vaut aussi c'est quelques 10 puissance moins 23, je crois. Je ne me souviens plus exactement, je ne l'ai pas de tête, la constante de Planck tous les jours, je ne l'utilise pas tous les jours. Alors, vous voyez que le produit de l'énergie par l'intervalle de temps doit toujours être supérieur à cette quantité-là, d'accord ? Donc l'idée, elle est que ça, c'est le temps pendant lequel vous faites la mesure, d'accord ? Et ça, c'est la précision avec laquelle vous allez pouvoir mesurer l'énergie. D'accord ? Donc je prends, c'est comme si vous mesurez quelque chose avec un double décimètre. Vous faites ça à l'arrache en deux secondes, vous avez une valeur, pas très bonne. Vous faites ça soigneusement, en vous asseyant, en prenant vos lunettes, etc. Et tout de suite, vous avez une meilleure valeur. D'accord ? Donc, plus vous allez passer de temps à faire une mesure, plus cette mesure va être précise. D'accord ? Bon. Si maintenant ma particule existe que pendant un temps très court, du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour mesurer son énergie. Du coup, je n'ai pas une bonne précision sur la valeur de son énergie. Du coup, je ne sais pas quelle est son énergie. Et si je ne sais pas quelle est son énergie, et si personne dans l'univers ne sait quelle est son énergie, eh ben son énergie, elle peut être n'importe quoi. Y compris les choses qui violent les principes de conservation. Vous voyez ? Si personne n'est au courant qu'un truc n'est pas possible, ce truc peut parfaitement se produire. En gros. D'accord ? Donc après, il suffit que cette incertitude sur l'énergie soit supérieure à l'énergie de masse. Ça, c'est la formule la plus célèbre de la physique, E égale mc carré. Une particule d'une masse petit m contient en elle-même une énergie E. Donc si j'ai cette énergie E, je peux fabriquer cette particule petit m. Donc si le temps est suffisamment court, du coup delta E va être suffisamment grand, il peut être supérieur à l'énergie de cette particule, et cette particule peut se mettre à exister. Ok ? Simplement, elle existe parce qu'on ne sait pas qu'elle ne peut pas exister. Si vous voulez. D'accord ? Alors, après, ah oui. Je ne sais plus où j'en étais après. En gros, vous allez avoir deux types de particules qui vont exister dans l'univers. Les particules qui vont constituer Saturne, donc les particules qui vont être des particules de matière, Et puis ces particules qui vont modéliser une forme d'interaction entre les particules. D'accord ? Elles n'ont pas la même nature. Vous voyez qu'il y en a qui sont des particules un petit peu solides, quoique. Et puis d'autres qui sont des particules qui peuvent être très éphémères ou pas, suivant leur masse. Et puis qui vont modéliser un petit peu les actions entre les différentes particules de matière. Alors tout ça, ça nous donne quoi comme particules ? Des particules, il en existe trois familles de quatre. Ça, c'est les particules de matière. Et ça, c'est les particules d'interaction. D'accord ? Bon, lui, c'est le boson de masse, c'est le boson de Higgs. Justement, c'est lui dont je parlerai en dernier. Donc, je commence par les autres. Alors, déjà, nous, on est là. Vous êtes constitués de ces quatre particules. Moi aussi. C'est pas parce que je suis physicien que je suis constitué d'autre chose. A priori, je suis constitué aussi de ces quatre particules. Donc, c'est deux quarks, up et down. Ça constitue les noyaux des atomes. Et enfin, ils se mélangent pour fabriquer les protons et les neutrons qui sont les noyaux des atomes. Et puis ensuite, vous avez l'électron qui, lui, va tourner autour des atomes. Ça fait la matière, toute la matière. Toute la matière est constituée de ces trois particules. Et puis, vous avez cette particule qui est un peu particulière, qui est le neutrino électronique, qui apparaît pendant certaines désintégrations radioactives. Bon, mais pour que ces quatre particules aient leurs propriétés, le problème, c'est que dans les équations de modèles standards, eh bien, il y avait besoin d'autres particules, toujours pour des problèmes de symétrie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des symétries, mais il y a besoin d'autres familles de particules. Donc on a postulé, il doit exister une deuxième famille de particules pour que telle et telle propriété soit symétrique. Et puis on les a cherchées, parce que souvent en physique on fait comme ça, on commence par postuler un truc, et après on cherche pour voir si par hasard il n'existerait pas. C'est ce qu'on a fait typiquement avec le boson de Higgs. Et puis on a découvert effectivement une deuxième famille de particules avec le quark charme, le quark étrange, et puis le lepton le muon, et puis le neutrino muonique. Et puis on s'est aperçu qu'il nous manquait encore des symétries, donc on a postulé une troisième famille, et là effectivement c'est le quark top, le quark bottom, le lepton tau et le neutrino du lepton tau. Et donc ça nous fait en tout 12 particules, pardon, dont 4 existent dans la matière de tous les jours, et puis les 8 autres, elles n'existent pas. Enfin, elles existent, mais il faut les fabriquer, mais sinon dans la nature, elles n'existent pas. Mais elles sont nécessaires quand même pour que la théorie tienne debout. Et puis à côté, vous avez les particules d'interaction, ces fameux trucs qui échangent, là, que c'est échangé Saturne avec Max von Cassini. Donc vous en avez 4. Le photon, qui est le plus connu, c'est celui qui caractérise l'interaction électromagnétique, l'interaction entre deux charges électriques. Le photon, c'est ce qui produit la lumière, c'est toutes les ondes radio, c'est tous les rayons X, tout ça, c'est de l'interaction électromagnétique, donc c'est des photons. Vous avez le gluon. Le gluon, c'est ce qui va lier les protons et les neutrons au sein des noyaux des atomes. Et puis le boson Z et le boson W qui vont lier en fait ces quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. D'accord ? Donc ça, c'est l'interaction électromagnétique, ça, c'est l'interaction forte, et puis ça, c'est ce qu'on appelle l'interaction faible. Alors, c'est des bosons de jauge, mais ça, je n'entre pas dans les détails, ça n'a pas grande importance. Alors, quand on a toute cette zoologie de particules et qu'on est des physiciens, on se dit bon, alors quelles sont les ressemblances, les dissemblances entre ces particules, à quoi elles ressemblent, quelles sont leurs propriétés. Oui, lui, il est tout seul dans son coin. Alors, la propriété. J'ai pas de titre sur ce slide. Alors, la propriété majeure qu'on regarde généralement, c'est la masse. Et on s'aperçoit, alors la masse là, elle est exprimée en énergie, puisque de toute façon, énergie et masse, c'est la même chose, E égale mc carré, vous avez juste un facteur c carré entre les deux, donc ça n'a pas d'importance. Donc voilà, ça c'est l'énergie des masses, alors c'est dans une échelle dite logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque graduation ici, vous avez un facteur 10. D'accord ? Donc le quark top, lui, il est là, c'est un gros pépère, il est très, très énergétique. Et puis les autres quarks qui sont là, donc ça c'est le bottom, celui-là c'est le charme, celui-là c'est l'étrange, Celui-là, c'est le down. Celui-là, c'est le up. Donc, vous avez le quark up, par exemple, qui est 1, 2, 3, 4, 5, donc qui est pratiquement 100 000 fois plus léger que le quark top. Alors ça, et on n'a pas d'explication, et a priori, la théorie ne prévoit pas d'explication par rapport à ça. Et ça, on n'aime pas ça du tout. Quand il y a 5 ordres de grandeur, c'est un facteur 100 000 entre deux masses, il y a une explication. Alors, si on n'a pas d'explication, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore trouvée. Il y a forcément une explication. De la même façon, si vous voulez, les leptons aussi, donc les électrons, muons et taux, sont très dispersés sur l'échelle des masses. Et puis, alors, les neutrinos, c'est encore pire. Eux, ils sont très, très, très légers. D'ailleurs, on a longtemps pensé qu'ils n'avaient pas de masse. Et ils en ont une, mais elle est très, 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 très petite. On n'a pas encore réussi à toutes les mesurer. Donc, tout ça, ça nous fait une disparité de paramètres qui est assez vaste. Et c'est le problème central du modèle standard, c'est-à-dire du modèle actuel de la physique des particules. Pourquoi est-ce que les particules ont des masses aussi différentes, alors qu'il n'y a pas de raison objective pour un quark, c'est un quark, il devrait avoir à peu près la même masse. Je veux dire, un humain, c'est un humain, on a tous à peu près la même masse. Bon, il n'y a pas 5 ordres de grandeur, en tout cas, il n'y a pas un facteur 100 000 entre les personnes les plus lourdes et les personnes les plus légères. D'accord ? Donc les quarks, il n'y a pas de raison qu'il y ait un facteur 100 000 entre les deux. Donc on s'est beaucoup intéressé à comment est-ce que les particules acquièrent leur masse. Et ça, c'est un deuxième problème majeur du modèle standard, c'est que dans le modèle standard, il n'est absolument pas prévu que les particules aient des masses. Enfin, au départ. Alors, attention, il y a une formule. Alors celle-là, elle est méchante. D'un autre côté, c'est la réponse à comment fonctionne l'univers. Quand même. Donc ça, c'est l'équation qui vous explique comment fonctionne l'univers. Pourquoi il y a un univers? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Etc. C'est là. C'est pas rien quand même. Alors, si vous réussissez à expliquer le comportement de votre voisin avec cette équation-là, je vous paye une bière. Donc ça, c'est donc ce qu'on appelle le Lagrangien du modèle standard. Donc c'est une fonction qui, une fois que vous connaissez cette fonction, et ben vous pouvez expliquer le comportement de toutes les particules. Si vous expliquez le comportement de toutes les particules, vous pouvez expliquer quel est le fonctionnement de l'univers. Alors, jusqu'à avant X, avant Brout, Engler et X, parce qu'on parle toujours de X, mais il y a quand même deux chercheurs belges qui ont découvert en fait le mécanisme de X en même temps que X, c'est Brout et Engler. D'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel avec X en 2012. Donc, ces trois chercheurs, ils se sont dit, on a tous ces termes-là qui décrivent un univers de particules sans masse. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un terme. Il a. Je vais dire que ce terme, c'est le terme qui va me permettre de modéliser, si vous voulez, le comportement d'une masse. Alors, c'est quoi le comportement d'une masse? Alors, ça, c'est très facile parce qu'en ce moment, il y a la Coupe du Monde de rugby. Donc, c'est facile d'expliquer ce que c'est que la masse. La masse, en gros, c'est la différence entre un deuxième ligne et un demi de mêlée. Un deuxième ligne, bah, il n'est pas facile à lancer, mais une fois qu'il est lancé, il n'est pas facile à arrêter. Un demi de mêlée, il court dans tous les sens, mais bon, lui, il est plutôt facile à arrêter. Vous lui mettez un caramel et puis il s'arrête. Donc l'idée, elle est de reproduire ce fonctionnement-là en faisant interagir les particules qui n'ont donc pas de masse avec un champ qui est ce qu'il est et qui fait que certaines particules vont être difficiles à arrêter, vont être difficiles à lancer, et puis d'autres particules, elles, vont pouvoir se balader facilement. Pour imager mon propos, imaginez un champ de neige, fraîche, épaisse. D'accord ? Et puis, vous imaginez des gens qui se promènent sur ce champ de neige, ils ont tous la même masse, ils n'ont pas de masse. D'accord ? Et puis, par contre, ils ont des raquettes. Et vous en avez qui ont des grandes raquettes, puis d'autres qui n'ont pas de raquettes. Vous voyez que ceux qui n'ont pas de raquettes, ils vont s'enfoncer dans le champ de neige, puis ils vont avoir du mal à se déplacer. D'accord ? Et puis ceux qui ont des grandes raquettes, eux, ils vont être sur le champ de neige, puis ils vont courir dans tous les sens. D'accord ? Donc c'est ça, si vous voulez, le mécanisme qui va permettre aux physiciens des particules de, de simuler, si vous voulez, cette notion de masse. C'est-à-dire que les particules qui auront des grandes raquettes, elles seront des particules légères, elles vont se promener sur le champ de neige sans problème. Et les particules qui n'ont pas de raquettes, eh ben, elles vont s'enfoncer dans le champ de neige, puis elles vont avoir du mal à avancer. C'est elles. Ah bah vous en avez, il y en avait, c'est dans l'air, c'est dans tout. Non, toutes ces particules, c'est par... on est bien d'accord que là, on est en train de parler de ce qui se passe de partout, là. Toute la matière est constituée, la matière, hein, elle est constituée de ces particules-là. Donc tout ce que je dis là, c'est valable pour toutes les particules. Alors, ben, celle-là, oui, pas celle-là. Alors, celle-là, elle est autour du noyau de l'atome. Ça fait le nuage électronique. D'accord. Et celle-là, elle est ailleurs. Ces deux-là, elles forment les noyaux des atomes. Enfin, elles forment les protons et les neutrons qui forment les noyaux des atomes. Et celle-là, elle tourne autour des noyaux des atomes. Alors, bah, y a aussi ça, parce que ça, c'est ce qui va lier les protons et les neutrons entre eux. Ça, c'est le boson d'interaction forte, c'est la particule d'interaction forte. Donc, en fait, les neutrons et les protons, ils passent leur temps à se balancer des gluons dessus pour rester ensemble. Et puis, les quarks à l'intérieur des protons, eux, ils se jettent des bosons Z et W à la figure pour rester ensemble. Donc, en fait, les quarks ici, ils se lient avec ces bosons-là pour former les protons et les neutrons. Les protons et les neutrons se lient avec le gluon. Et ensuite, les électrons se lient au reste avec le photon. Il n'y a rien d'autre. Alors, à notre échelle, ces deux forces-là, on ne les ressent pas, parce qu'elles sont à l'intérieur du noyau, elles sont limitées à l'intérieur du noyau. Donc la seule force qu'on expérimente, c'est la force électromagnétique. Il n'y a que deux interactions auxquelles on est sensible à notre échelle, c'est la gravitation et la force électromagnétique. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas gravitation, c'est-à-dire tout ce qui ne nous colle pas à la Terre, tout le reste, c'est de l'interaction électromagnétique. La couleur de mes slides, là, le fait que vous ne passiez pas à travers votre chaise alors que la chaise est composée à 99% de vide et vous aussi, tout ça c'est de l'interaction électromagnétique. D'accord ? Là, toute la chimie, tout est électromagnétisme. La seule chose qui n'est pas électromagnétisme, c'est le fait qu'on est collé au sol. Tout le reste, c'est de l'électromagnétisme. Alors, après, le système étant plus complexe, on ne décrit pas les choses juste avec de l'électromagnétisme. Heureusement, on a des modèles qui sont à une couche un peu plus élevée. Donc, si je reviens au Lagrangien du modèle standard, donc ce terme, c'est simplement, bah voilà, c'est le fameux champ de neige. Donc après, bah, je choisis l'épaisseur de neige dont j'ai besoin, etc., pour reproduire exactement le comportement des particules. Alors, le problème, c'est que ça fait des paramètres. Et des paramètres que je fixe pour que ça colle. Alors ça, les physiciens, on n'aime pas trop ça non plus, les paramètres qu'on fixe juste pour que ça colle. Il faut qu'on ait une bonne raison. C'est toujours une question d'harmonie, c'est toujours une question d'explication naturelle des choses. Si on n'est pas capable d'expliquer naturellement quelque chose, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Là où j'en suis, ah bah oui, non, c'est vrai. Donc là, on a quand même un vrai problème sur le modèle standard, c'est que le modèle standard, il y a plein de choses qu'il prévoit grâce aux paramètres qu'on lui met dedans. Sauf que ces paramètres, on les lui met dedans parce que c'est les bons, mais sans autre explication. Et ça, c'est pas suffisant. Mais je vais y revenir un petit peu après. Donc vous voyez que du coup, j'ai ce champ là, ce champ de neige. Et ce champ de neige, bah, je vais dire que c'est le champ de Higgs. Et comme j'ai dit précédemment que je pouvais modéliser l'action d'un champ par une particule, je vais postuler l'existence d'une particule qui va interagir avec les autres particules, qui va être l'interaction de ces particules avec ce champ de Higgs, et cette particule, c'est le boson de Higgs. Ok ? Bon, alors maintenant, comment est-ce qu'on a trouvé le boson de Higgs ? Le boson de Higgs, il a été découvert au LHC, au CERN à Genève, le Large Hadron Collider. Donc c'est un anneau. Vous voyez, ça c'est la carte, c'est la carte satellitaire du CERN. Donc l'anneau, il fait 27 km de circonférence. Donc vous avez ici un premier anneau qui fait, 7 ou 8 km. Il sert d'injecteur. Et puis, vous avez les différents... En fait, vous avez deux anneaux qui se croisent ici et là pour collisionner en fait, les deux faisceaux. Vous avez un faisceau qui tourne dans un sens, puis vous avez un faisceau qui tourne dans l'autre. Et donc, vous avez quatre expériences. Vous avez quatre points où les deux anneaux se croisent. Vous avez CMS qui est là, LHCb qui est là, qui est plus pour d'autres applications que le boson de Higgs. ALICE qui est là, qui est lui aussi pour d'autres applications. Et puis ATLAS. Donc ATLAS et CMS sont les deux détecteurs qu'on a utilisés pour la découverte du boson de Higgs. Donc l'idée, elle est la suivante. Hein. Le boson de Higgs, on connaît à peu près sa masse. Là, je repars là. On connaît à peu près sa masse. Donc on sait qu'on va avoir besoin de, si on veut trouver le boson de Higgs, il va falloir faire des collisions et de façon à avoir de l'énergie disponible suffisante pour que cette particule puisse éventuellement exister. D'accord. Alors on n'observera jamais directement le boson de Higgs. Ce qu'on va observer, c'est en fait la désintégration de ce boson de Higgs, puisqu'il a une masse quand même qui est assez importante. Donc j'ai dit plus la masse est importante, plus l'énergie est importante, plus l'énergie est importante, plus la durée de vie est courte. D'accord. Donc sa durée de vie est très courte, donc en fait il va très vite se désintégrer en d'autres particules. Donc c'est le principe des détecteurs, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser toute l'énergie qui a été créée par les collisions entre protons, on va trier ce qu'on connaît déjà, et puis ce qu'on ne connaît pas, a priori, ça doit être le boson de Higgs. Donc, alors c'est des détecteurs, donc les chocs se font ici, d'accord. Et ça, après, tout le reste, ça, c'est des détecteurs. Il y a plusieurs détecteurs parce que il vous faut détecter toutes les particules, d'accord. Si vous en ratez une, vous perdez de l'énergie. Si vous perdez de l'énergie, vous avez à la fin, quand vous faites votre bilan, vous n'avez pas le bon bilan, d'accord. Donc, il faut arriver à récupérer toutes les particules. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que des particules, vous avez vu, il y en a toute une palanquée, et encore. Ça, c'était les particules élémentaires, mais vous avez des particules exotiques qui se forment par des paires de particules élémentaires. Il faut aussi les récupérer. Donc, ça fait des détecteurs qui sont assez gros. Vous avez un humain, là. Puis là, vous avez le détecteur CMS. Donc, il fait à peu près 6 étages de haut. Donc, ça, c'est des détecteurs. C'est du silicium, c'est du laiton, c'est du etc. Vous avez plusieurs couches de détecteurs en fait qui sont empilées les unes sur les autres. Donc ça, c'est CMS. Alors ici, vous avez une simulation de collision dans CMS. Donc là, vous voyez, vous avez en fait ici et puis là sont arrivés les faisceaux. Et puis toutes les trajectoires que vous voyez, c'est en fait des particules qui ont été émises par les collisions. Donc à chaque événement, vous allez à peu près avoir quelques centaines de milliards de protons qui vont se croiser. Sur ces centaines de milliards de protons qui vont se croiser, vous allez avoir à peu près 20 collisions. Et sur ces 20 collisions, vous allez peut-être en avoir une ou deux qui va créer un boson de Higgs. D'accord ? Donc il faut arriver à être capable de repérer quelles sont les collisions qui ont donné un boson de Higgs et quelles sont les collisions qui n'ont pas donné un boson de Higgs, évidemment. Donc l'expérience ATLAS, vous voyez, ça ressemble, c'est l'autre expérience. Alors il y avait deux expériences parce qu'au départ, il y avait eu un appel à projet. En science, on fonctionne toujours par appel à projet, hein. Beaucoup. Donc il y avait un appel à projet, il y a eu 4 projets de déposés pour des détecteurs, mais il n'y avait pas 4 places. Donc il n'y avait que 2 croisements de, 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 de tubes. Donc, il fallait trier dans les projets. Donc, en fait, après, c'était des questions de conception de détecteurs qui étaient les deux qui ont eu le plus de succès, c'est ceux qui étaient les moins chers, évidemment. Mais en fait, il se trouve que les deux projets qui ont été rejetés sont quand même intégrés aux deux projets qui ont été acceptés. Et en fait, bon, c'est des questions de conception de détecteurs dans lesquels je n'entrerai pas. Mais vous voyez qu'en fait, si vous regardez un petit peu de loin, ils ont quand même à peu près la même gueule, hein, les deux détecteurs. De toute façon, pour détecter les particules, il n'y a pas 40 000 façons de faire. Donc, il y a juste quelques petites subtilités. Alors, l'intérêt d'avoir deux détecteurs, c'est qu'il y a deux détecteurs complètement indépendants, deux équipes complètement indépendantes. Et donc l'idée, elle était de regrouper, recouper en fait les résultats. Donc là, bah, c'est pareil, ça c'est Atlas, vous voyez c'est pareil, hein, ça se ressemble beaucoup. Vous voyez ça, c'est un pont, je ne sais pas s'il y a un individu là, non, il n'y a personne. Si, il y a un gars là, vous voyez. Donc ça vous donne à peu près l'idée de la taille du détecteur. Bon, bah, et alors les résultats? Les résultats, les voilà. Donc ça, c'est la petite bosse, là. Vous voyez la petite bosse au milieu, là ? Ben, ça, c'est le boson de Higgs. Alors, il faut avoir la foi, hein, parce que vous dites, ben, y a une petite bosse, là, aussi. Oui, mais non. Là, c'est pas une petite bosse. Ça, c'est une petite bosse, mais ça, c'en est pas une. Des fois, je comprends pas trop ce que font les physiciens des particules. Mais disons que, non, statistiquement, quand même, là, vous avez, je crois, c'est... alors, ça, c'est le résultat à l'époque de la publication, donc, à l'époque de la conférence de presse qu'a fait le CERN. Donc, à l'époque, ils avaient, je crois, donc le LHC fonctionnait depuis 2 ans, et ils avaient 4 événements, ou 6 événements, je crois, qui avaient donné un boson de Higgs. Depuis... comme ils savent ce qu'il faut chercher, tout de suite quand on sait ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus facile pour le trouver, vous avez sans doute remarqué, quand on sait où il faut chercher, c'est encore plus facile de trouver ce qu'on cherche. Donc depuis, disons que la fin du run du LHC, c'était fin décembre 2012, donc la conférence de presse était en juillet 2012, donc la fin du run était en décembre 2012, et à la fin du run, ils avaient une vingtaine d'événements, donc du coup, ils avaient une statistique qui était bien meilleure. Et là, le pic devenait très net. Bon, donc voilà. Donc ça nous donne. Donc vous avez un petit supplément là d'énergie. Quand vous récupérez toute l'énergie, vous vous rendez compte qu'il y a un petit pic à cet endroit-là. Et puis bah, ça correspond à peu près à ce qu'on avait prévu théoriquement pour la masse du boson de Higgs. Donc a priori, ça reflétait la découverte du boson. Alors. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il me reste comme temps, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. Donc la question un petit peu c'est, mais le boson de Higgs, ça change quoi dans ma vie et qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça apporte considérablement moins que l'emballement médiatique a pu le laisser penser. Alors, la première chose, c'est que ça ne confirme pas le modèle standard. On ne peut pas confirmer le modèle standard par une expérience. De toute façon, d'une manière générale, on ne confirme pas un modèle par une expérience. Vous pouvez éventuellement infirmer un modèle par une expérience. Il suffit de faire une expérience avec laquelle le modèle ne marche pas. Mais une expérience qui marche dans un certain modèle, ça ne confirme pas le modèle. D'accord ? Il suffit de trouver une expérience qui ne marche pas, et puis bah, le bon modèle, vous avez beau avoir fait toutes les expériences qui marchaient avant, s'il y en a une qui ne marche pas, elle infirme le modèle. Donc, le modèle standard n'est pas confirmé par l'existence du boson de Higgs. Simplement, ce qu'on sait, c'est que le mécanisme de Higgs est plutôt pas bête pour déterminer la masse pour avoir la masse des particules, puisque la particule qui correspond à l'interaction de Higgs existe. Deuxième chose, alors, à noter que... si on ne confirme pas le modèle standard par l'expérience de Higgs, ça, c'est pas très grave, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre que le modèle standard pour étudier les particules. Donc, de toute façon, on est obligé d'utiliser le modèle standard. Le modèle standard, on sait qu'il est insuffisant. Alors, pourquoi ? Bah, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez la dispersion des masses, qui n'est pas expliquée du tout dans le modèle standard. La masse des neutrinos, les neutrinos n'ont pas de masse dans le modèle standard, alors qu'ils en ont visiblement une. Puisqu'on a réussi, on a estimé à peu près laquelle elle était. Donc le modèle standard, on sait qu'il est insuffisant. Il va falloir trouver une autre physique que la physique du modèle standard si on veut expliquer les phénomènes du modèle standard. Donc c'est pour ça que le LHC est parti dans une deuxième campagne d'expérience qui a débuté en avril. Là. Donc c'est pour ça qu'en fait il y avait pas mal de conférences sur le boson de Higgs, enfin sur le LHC au Congrès général de la Société française de physique. Donc l'idée, elle est de voir si par hasard il n'y aurait pas plusieurs bosons de Higgs. Donc on n'en avait pas assez d'un. On a peut-être plusieurs en fait. Alors ça, ce serait bien parce que ça permettrait d'ouvrir quelques perspectives, en particulier sur un certain nombre de problèmes, toujours des problèmes de symétrie, de comportement des particules et de leurs antiparticules. Je n'ai pas parlé des antiparticules. L'antimatière, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Ce que je vous ai montré comme particules, c'est seulement les particules de matière. Je n'ai pas parlé des particules d'antimatière. Les particules d'antimatière, c'est les mêmes, mais avec anti devant. Et ces particules n'existent pas dans l'univers. Elles ont existé probablement. Alors elles ont existé par là. Ça, c'est l'âge de l'univers. Ça, c'est le Big Bang. Donc alors, l'échelle des temps est complètement farfelue, hein, parce que ça, c'est 10-44 secondes après le Big Bang. Ça, c'est 10-37 secondes après le Big Bang. Ça, c'est 10-10 secondes après le Big Bang. Donc là, vous avez de l'antimatière. Il est très probable qu'à partir de là, il n'y en a plus. Nous, ce qu'on voit, c'est à partir de là. C'est-à-dire à partir de 300 000 ans après le Big Bang. Alors, ce qu'on voit, c'est ça. C'est le rayonnement, cosmique. D'accord. Donc ça, c'est le reste du flash, si vous voulez, du Big Bang, d'accord, qu'on voit dans le fond cosmique. Alors, typiquement, si vous voulez, les expériences qu'on fait dans les accélérateurs de particules, dans le LHC, là, vous voyez, on est à peu près par là. Donc on est à des énergies, si vous voulez, qui correspondent à 10-10 secondes après le Big Bang. Donc ça nous permet d'explorer un petit peu comment était la matière à ce moment-là. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose à ma vie de tous les jours. Mais bon, le boson de Higgs, il y a pas grand-chose qui change. Ça ne change pas grand-chose à votre vie de tous les jours, hein, ni à la mienne d'ailleurs. Hein. Mais c'est juste de la connaissance pure. C'est un peu vain par moment, mais donc l'idée en fait, elle est d'essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut remonter, quoi. Sachant que de toute façon, on pourra probablement pas remonter au-delà de 10^-37 secondes, tout simplement parce que là se produit un événement qu'on ne comprend pas du tout et qui est l'expansion. C'est-à-dire que l'univers il est passé d'une taille très petite à une taille très grande de manière quasiment instantanée. Et beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça, on ne comprend pas trop. Alors, comment on le sait, ça? Bah, c'est parce que, vous voyez, quand vous regardez le rayonnement fossile dans tout l'univers, vous vous rendez compte qu'en fait, il est le même partout. Et s'il est le même partout, vous avez, là encore, les physiciens n'aiment pas quand deux choses sont les mêmes et qu'elles n'ont a priori pas de cause commune, c'est gênant. On n'aime pas ça. Donc a priori, comme ce coin de l'univers n'est pas relié de façon causale à ce point de l'univers-là, c'est-à-dire vous n'avez pas de relation de causalité entre un événement qui se passe ici et un événement qui se passe là, ça veut dire que ce qui se passe ici ne doit pas du tout ressembler à ce qui se passe là. Or, il ressemble. Donc ça veut dire qu'à un moment, ces deux points de l'univers, très éloignés l'un de l'autre, étaient en connexion. D'accord ? Et donc ça n'a pu se produire que si, à un moment, il y a eu une inflation brutale de l'univers. Bien plus. Parce que l'âge de l'univers, c'est 15 milliards d'années. La taille de l'univers, c'est au moins 60 milliards d'années-lumière. D'accord ? Donc, vous voyez que la taille de l'univers, vous ne pouvez pas expliquer la taille de l'univers simplement par une expansion de l'univers à la vitesse de la lumière. D'accord ? Il faut qu'à un moment, l'expansion de l'univers ait été plus rapide que la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas bien. Mais on ne désespère pas parce qu'on s'en rapproche, hein, avec le LHC. Et puis je suis sûr qu'avec quelques milliards d'euros en plus, on arrivera un petit peu plus loin. Hein. Il suffit de les trouver, c'est tout. Ce qui n'est pas un problème. Alors, on ne voit pas du tout. Alors, je voudrais dire deux mots quand même sur la communication du CERN. Parce que quand même, je ne sais pas si vous avez, enfin, je sais pas, à moins que vous ayez été dans une caverne à l'été 2012, mais tout le monde se posait la question sur qu'est-ce que c'est que le boson de Higgs. Enfin, presque tout le monde. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, bah, toi qui es physicien, tu peux m'expliquer ce que c'est que le boson de Higgs. Je dis non, je ne peux pas expliquer, mais je ne sais pas ce que c'est que le boson de Higgs. À l'époque, je n'avais pas encore trop regardé la question de près. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf de la science, c'est l'argent. Et un plan com bien mené peut vous ramener bien plus d'argent qu'une belle découverte. Quand vous avez une belle découverte et un plan com bien mené, là, j'aime autant vous dire que vous êtes le roi du pétrole. L'idée générale du CERN, alors d'abord, ça a été de faire l'annonce en été, là où au niveau actualité, ça. D'avoir des relais. Le CERN a des relais partout dans le monde parce que toutes les équipes Atlas, CMS, etc., j'en ai parlé, sont des équipes internationales. Les Américains, par exemple, ont beaucoup investi dans CMS à partir du moment où eux, ils avaient une idée d'un accélérateur au Texas qui aurait pulvérisé tout le monde, etc. Et puis, il y a eu des coupes budgétaires. Et puis, les premiers trucs qui disparaissent, a priori, quand il y a des coupes budgétaires, c'est la science fondamentale. Donc, ils ont coupé cette idée-là. Et puis, en plus, le LHC commençait à être monté. Donc, ils ont laissé tomber. Ils ont dit, on n'arrivera pas à découvrir le boson de Higgs avant le CERN. Leur projet était moins avancé. Et donc, ça voulait dire ça n'allait pas être eux qui allaient faire l'annonce. Ça allait être le CERN qui allait faire l'annonce de la découverte du boson de Higgs. Or, si vous voulez, la question, c'était qui en premier allait faire cette annonce. Celui qui faisait l'annonce en premier, c'est lui qui aurait l'argent après, évidemment. Donc, ils n'étaient pas dans la course. Donc, à partir du moment où ils n'étaient pas dans la course, ils ont laissé tomber complètement. Et donc, ils se sont alliés avec le CMS. Donc, il y avait des équipes de vraiment partout dans le monde. Et tout le monde, tous les physiciens qui sont impliqués dans le CERN, avaient intérêt à ce que ça fasse du buzz parce qu'on a besoin d'argent. Le LHC, vous voyez, ça fait 27 km. Vous avez c'est en fait une succession d'aimants d'une vingtaine de mètres. Donc ça vous donne le nombre d'aimants, je ne vais pas faire le calcul, mais vous pouvez le faire. Et chaque aimant coûte en gros 1 million d'euros. La louche. D'accord ? Alors déjà, il n'y avait pas besoin de percer le tunnel, parce que le tunnel, il existait déjà. Ça faisait 1 milliard de francs suisses de moins déjà. C'est des francs suisses parce que c'est à Genève. Donc déjà, vous aviez une économie substantielle, etc. Enfin, bref, le laiton des détecteurs, là, c'est de la récup. C'est des obus russes. C'est des douilles d'obus russes qui ont été récupérées. La marine russe a donné un stock de douilles d'obus qu'elle avait utilisé pour des exercices. C'est la marine de la mer Noire de Russie qui a donné les obus. Enfin bref, vous voyez, on est tout le temps en train de gratter de l'argent parce qu'on n'a jamais assez d'argent pour faire de la recherche. Donc la com du CERN a été clairement complètement orientée pour faire du buzz. Mais d'un autre côté, ça a donné lieu à des choses très chouettes. Je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion, ou si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez aller voir. Sur le site, on ne voit pas bien, ça s'appelle lechampdesparticules.net. C'est un très joli film réalisé par Bourreau, je crois, sur un texte d'Olivier Cadio, dit par Michael Lansdall. C'est un très 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 joli petit film qui explique un petit peu, qui c'est un petit documentaire du LHC sur le LHC dit à la première personne. En fait, c'est le LHC qui parle. C'est très très chouette. Il y a eu plein de petites petites actions qu'a fait le CERN. Ils ont mis en place aussi toute une commission d'éthique aussi autour des particules, etc. Donc le CERN a vraiment fait très attention dans sa stratégie de développement d'avoir une communication extrêmement efficace et extrêmement et qui a définitivement porté ses fruits parce que, ben, parce que c'est vrai que le boson de Higgs, comme vous avez pu le voir, c'est complètement incompréhensible. Enfin, c'est quelque chose de complètement pas de ce monde. Et pourtant, ils ont réussi à intéresser les médias de la planète entière sur, sur le boson de Higgs. Voilà. Donc l'idée générale, en fait, si vous voulez, c'est une constante, hein, si vous voulez avoir de l'argent, il faut intéresser la planète entière à ce que vous êtes en train de faire, quoi. Voilà. Bon, si vous avez des questions. Ah. Alors, d'une manière, alors la particule divine, ça vient de Léon Lederman. Léon Lederman était toujours d'ailleurs un physicien des particules qui a une certaine verve. C'est quelqu'un d'un peu expansif, si vous voulez. Contrairement à beaucoup de physiciens qui sont des gens un petit peu introvertis, lui plutôt extraverti. Et donc, il a écrit un livre. Alors, franchement, je ne le conseille pas forcément, le livre de Léon Lederman. C'est plein de blagues de geeks qui n'intéressent que les geeks. Donc, franchement, moi, je me suis beaucoup amusé à le lire, mais franchement, je pense que beaucoup de gens vont trouver cet humour parfaitement vain. Et ce livre s'appelle The God's Particle, la particule de Dieu. Au départ, les physiciens des particules, le boson de Higgs leur échappait, c'est-à-dire qu'il est à une énergie qui est assez élevée, donc il est difficile à détecter. Ils avaient pensé qu'avec le Tevatron qu'ils avaient aux États-Unis à Brookhaven, ils allaient pouvoir le voir. En fait, ils n'ont pas réussi à le voir. En fait, a posteriori, après les résultats du CERN, ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu effectivement des événements Higgs, mais qu'ils n'avaient pas été capables de les identifier. Bref, c'est une particule qui était un petit peu... on se doutait qu'elle existait, parce que le CERN ne s'est pas lancé là-dedans sans savoir qu'ils allaient trouver. Quand même, on a dit « Ah, oh, formidable, on a découvert le boson de Higgs ouais, !» C'était évident qu'on avait découvert le boson de Higgs, il suffisait d'y mettre les moyens. Mais, donc cette particule, elle était un petit peu illusive, disons. Et du coup, les physiciens des particules l'avaient surnommée la foutue particule, ce qui en anglais veut dire God's damn particle. Et ils se sont dit, non, on peut pas appeler, enfin ça va pas marcher. Ça, si on veut un plan com un peu propre, God's damn particle, ça va pas le faire. Donc, Lederman s'est dit, bah tiens, quand même, c'est la particule qui donne sa substance à toute la matière. C'est la particule qui donne sa masse à toute la matière. Alors, c'est, d'accord, quand s'approche l'été, c'est un peu votre ennemi, mais sinon, le reste du temps, c'est ce qui donne la masse, ce qui donne la matérialité aux choses. Et donc, on ne va pas mettre le damn, mais on va mettre God's particle. Donc, voilà. Ah. 99% de vide, oui. Dans un atome, pour vous donner une idée de ce qu'est un atome, on essaye toujours de trouver des comparaisons à échelle humaine. Donc, si vous voulez, un atome, si je grandis l'atome à l'échelle de Poitiers, d'accord, je vais me retrouver avec un noyau qui va être un ballon de football au centre de la place d'armes. Et des électrons qui tournent autour, qui vont être des tas de, donc mettons une vingtaine ou une trentaine, ça dépend du numéro atomique de votre matière. Pour le fer, pour le cuivre par exemple, c'est 34. Vous allez donc vous retrouver avec 34 électrons qui tournent autour, et les électrons, c'est à peu près à cette échelle-là, ça va être à peu près de la taille d'une tête d'épingle. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un atome, c'est quelque chose qui fait la taille de Poitiers, et en fait, de matière dedans, vous avez un ballon de foot au centre de la place d'armes et 19 têtes, ou une vingtaine ou 30 têtes d'épingle qui tournent quelque part dans Poitiers. Donc le reste, c'est du vide. Donc la matière, c'est essentiellement du vide. C'est presque que du vide. C'est le nombre de protons dans le noyau et le nombre d'électrons qui tournent autour. En fait, vous avez les charges positives sont les protons, les charges négatives sont les électrons. Et les charges positives sont dans le noyau, et vous avez le même nombre de charges négatives qui tournent autour pour que l'atome soit neutre électriquement. Ah, c'est quoi le vide ? Alors, le vide, c'est quelque chose sur lequel on s'empaille beaucoup les physiciens des particules. Parce qu'en fait, le vide, ça n'existe pas vraiment. Là, j'ai un... Vous voyez, ce que je dis, c'est que la particule d'interaction, elle est créée à partir de l'énergie du vide. Parce qu'en fait, le vide contient de l'énergie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même suffisamment pour créer des particules. Alors ça, c'est un problème, parce que a priori, ce qu'on pensait jusqu'à présent du vide, c'est qu'il n'y avait rien dedans. Évidemment. Et le problème de l'existence, qu'il y a quand même quelque chose dans le vide, ça veut dire que... comment je vais expliquer ça ? Ça veut dire que qu'il existe un, si vous voulez, qu'il existe une structure figée quelque part dans l'univers. C'est-à-dire que deux points du vide ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a quelque chose. D'accord ? S'il n'y a rien du tout, d'accord ? Bon, bah, que vous soyez là ou là, ça ne change rien, puisqu'il n'y a rien. A priori, là, même la notion de là devient inexistante. D'accord ? À partir du moment où vous avez quelque chose, donc vous avez une espèce de soupe, si vous voulez, le vide, c'est une espèce de soupe d'énergie, si vous voulez, très, très, très diluée, mais c'est quand même une soupe d'énergie. Bah là, du coup, vous pouvez vous situer dans la soupe. Vous savez, c'est plutôt du côté de la carotte ou du côté du... Donc, du coup, la notion de, par exemple, la notion de référentiel absolu ou pas devient pertinente. Enfin, il y a plein de choses, en particulier dans la relativité générale, qui deviennent compliquées. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que de toute façon, la relativité générale, c'est une chose en physique, et toute la physique des particules, la mécanique quantique, etc., c'est autre chose. Les deux théories sont incompatibles. C'est aussi un des problèmes du modèle standard, c'est qu'il n'englobe pas l'interaction gravitationnelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je crois que j'ai gavé tout le monde là, cette fois. Voilà. Je vous en prie. Merci.
Je pense que même au niveau des vocabulaires, on va tous... Non, ça a suscité des questions, donc on est encore bien là. On a des contraintes de temps, mais voilà, autrement, c'est avec plaisir qu'on aurait pu prolonger. Hein. Voilà, mais si vous restez avec nous au repas, voilà, pourrait y avoir des échanges. Voilà, pour ceux qui ont encore des explications à demander à Monsieur Paco, je pense qu'il y en aura de nombreux. Voilà, donc je vais demander à Françoise Lemeur de bien vouloir nous rejoindre gentiment. Je m'inquiète, je vois pas. Ah, je voyais pas mon troisième intervenant. Discret, Thierry Bergès nous a rejoint. Bon, mais c'est très bien. Donc là, oui, par rapport aux intervenants, j'explique les va-et-vient du public, c'est qu'il y a des systèmes de rodateurs. Hein, voilà. C'est pas le propos qui fait que.
Par rapport au boson de Higgs, il y a aussi des livres pour les ados qui tentent d'expliquer, mais beaucoup moins bien que vous, parce que je n'ai toujours pas tout à fait compris, malgré ma voisine physicienne, qui est, voilà, mais... Alors là, je vais vous lire un extrait de... L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero, qui parle de Marie Curie. Et c'est un livre absolument magnifique parce qu'elle fait des allers-retours. Enfin bon, je vais vous dire, tous les livres que vous l'avez lu, vous faites... Oui, vous l'avez lu. Oui. Les livres que je vous présente, c'est toujours des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc, je vais donner à Christine toute une liste de livres que j'ai lus, que je ne peux pas présenter aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Je vois que Bruno Essard-Budaille a amené La France contre les robots de Bernanos. C'était tellement contre les robots que je n'ai pas voulu, j'ai pas pu l'emmener. Bon, j'avais plusieurs choses. J'ai lu aussi des choses de Stéphane Jégould, d'Étienne Klein, etc. Mais je vous donnerai tout ce que j'ai lu et tout ce que finalement, par rapport au vide, finalement, je ne présente que des choses que je n'ai pas lues. Et donc là, je vais vous lire un tout petit peu de choses que j'ai lues, alors qu'il y a, il y a énormément de... autour des avancées scientifiques, autour de nos peurs, autour de mes peurs, autour de l'immense comme ça, appétit qu'on peut avoir, et comment remettre tout le temps l'humain, la lecture, le livre, c'est-à-dire le dérisoire que je représente. C'est si. La sainte de ce livre est Marie Curie. J'ai toujours trouvé cette femme fascinante, comme pratiquement tout le monde d'ailleurs, car c'est un personnage hors norme et romantique qui semble plus grand que la vie. Une Polonaise spectaculaire qui a été capable de remporter deux prix Nobel, le Nobel de physique en 1903 avec son mari, Pierre Curie, et le Nobel de chimie en 1911 en solitaire. Marie Curie, Mania Sklodowska, a été poursuivie par sa légende. Le mythe qui existe aujourd'hui autour de sa mémoire, bien qu'énorme, est probablement moins exagéré que celui qu'elle dut supporter de son vivant. Qui plus est, sa célébrité passa par toutes sortes d'avatars. Elle fut d'abord considérée comme une sainte, puis une martyre, ensuite une putain, et tout ça de façon ardente et retentissante. Une partie du mythe de la sainteté scientifique de Marie Curie et de son époux est fondée sur les conditions pénibles dans lesquelles ils durent travailler, et c'est vrai. Pierre Curie rêva toute sa vie d'avoir un bon laboratoire et il mourut en réalité sans l'obtenir. La découverte du polonium et du radium fut faite dans un misérable hangar à moitié déglingué qui servait auparavant de remise, car Pierre Curie avait obtenu de l'école de physique et de chimie industrielle où il donnait des cours l'autorisation de l'utiliser. Les vitres fêlées et mal scellées de l'abri laissaient passer la poussière et l'eau de pluie contaminant les échantillons. Pour chauffer l'endroit, il n'y avait qu'un poêle, un petit poêle en fonte, et il faisait en hiver un froid à claquer des dents. Un matin, Marie Curie nota dans son carnet de travail qu'il ne faisait que 6 degrés à l'intérieur de l'atelier. Réaliser les délicates mesures nécessaires à la recherche devait être difficile avec les doigts gelés. Au début, Marie Curie travaillait seule à ses recherches. Mais les choses devinrent tout de suite très intéressantes et très compliquées à la fois, si bien que Pierre Curie abandonna les études qu'il était en train de réaliser sur le magnétisme et se joignit au labeur de sa femme. Marie décida d'expérimenter avec de la pêche blende, ou pêche blende, ou pêche blonde, on dit en français, ça fait pêche blonde, c'est un minerai. Donc Marie Curie décida d'expérimenter avec de la pêche blonde, un minerai qui contient entre autres de l'uranium. Et elle découvrit quelque chose d'hallucinant. La pêche blonde augmentait la conductivité de l'air encore plus que l'uranium qui en était extrait. Ce qui signifiait que dans ce minerai, Il devait y avoir un élément plus radioactif que l'uranium. Cette déduction fut très émouvante, mais les époux Curie n'avaient pas l'idée de la galère dans laquelle ils s'embarquaient, car ils ne pouvaient pas imaginer à ce moment-là que ces nouveaux éléments seraient si énormément radioactifs et par conséquent qu'ils étaient présents dans la pêche blonde en quantité tellement infinitésimale que pour pouvoir les traquer, ils allaient devoir passer à la moulinette une montagne de pierres. En tout, 10 tonnes de pêche blonde pour parvenir à en extraire un dixième de gramme de chlorure de radium. Donc 10 tonnes et un dixième de gramme. Et ils firent ça dans les conditions pitoyables de leur pauvre hangar, tous les deux seuls ou presque. L'enthousiasme atteignit des niveaux si élevés que ce nouvel élément commença à être dangereusement et inconsciemment utilisé pour tout, comme s'il s'agissait d'un baume magique. Par exemple, on ajouta du radium dans les cosmétiques, dans les crèmes pour le visage, qui vous gardaient soigneusement, soi-disant éternellement jeune, dans les rouges à lèvres, dans des lotions pour renforcer et embellir la chevelure, dans des dentifrices pour rendre les dents très blanches et foudroyer les caries, dans des onguents miraculeux contre la cellulite. Une réclame de la graine Alpha Radium disait « La radioactivité est un élément essentiel pour garder les cellules de la peau saines. » En matière de beauté, les femmes ont toujours fait des horreurs, comme utiliser pendant des siècles du carbonate de plomb pour se blanchir la figure, enfin, etc., etc. Mais le délire radioactif s'étendait à bien d'autres domaines que ceux de l'esthétique pure. S'ils se mettaient un sac avec du radium sur le scrotum, les impuissants guérissaient. Si vous attachiez ce sac à votre taille, vous n'aviez plus d'arthrite. Les bains radioactifs vous rendaient votre vigueur et un peu de radium soignait des maux tels que les rhumes ou les névralgies. Sarah Dry ajoute qu'on avait même fabriqué de la laine radioactive pour faire des habits pour les bébés. En tricotant les habits de votre bébé, utilisez la laine au radium, une merveilleuse source de chaleur et d'énergie vitale qui ne rétrécit pas au lavage et ne feutre pas. Lire une chose pareille fait évidemment un peu froid dans le dos. Il y a deux choses difficiles à comprendre dans la biographie de Marie Curie. La première, c'est qu'en dépit de toutes les preuves qui se sont accumulées au cours de sa vie, elle n'ait pas pris conscience de la dangerosité du radium. Les Curie avaient vu que l'exposition tuait les animaux dans le laboratoire, mais ils pensaient allègrement et illogiquement qu'elle ne produisait que des brûlures sur la peau des humains. Dans les années qui suivirent le décès de Pierre Curie, les preuves de l'extrême nocivité de la substance se multiplièrent. Plusieurs chercheurs moururent et le radium commença à être perçu avec une certaine méfiance. Pour vivre, nous devons nous raconter. Marie Curie n'a pas pu le faire avec Pierre, puisqu'il est mort très jeune. Et c'est pour ça qu'elle a écrit ce journal dont s'est servie Rosa Montero. Moi non plus, dit Rosa Montero, je n'ai pas pu, et c'est peut-être pour ça que j'écris ce livre. Ce que je viens de faire est le plus vieux truc de l'humanité face à l'horreur. La créativité est précisément ça, une tentative alchimique de transmuer la souffrance en beauté. L'art en général et la littérature en particulier sont des armes puissantes contre le mal et la douleur. Les romans ne les vainquent pas, mais ils nous consolent de l'effroi. En premier lieu, parce qu'ils nous unissent au reste de l'humanité. La littérature fait de nous une partie du tout, et dans le tout, la douleur individuelle semble faire un peu moins mal. Mais le sortilège fonctionne aussi parce que lorsque la souffrance nous brise la colonne vertébrale, l'art parvient à transformer cette douleur laide et sale en quelque chose de beau. Je raconte et je partage une nuit déchirante, et en le faisant, j'arrache des étincelles de lumière à l'obscurité. C'est pour ça que Joseph Conrad a écrit « Au cœur des ténèbres », pour exorciser, pour neutraliser son expérience au Congo, si effroyable qu'elle avait failli le rendre fou. C'est pour ça que Dickens a créé Oliver Twist et David Copperfield pour supporter la souffrance de sa propre enfance. Il faut faire quelque chose avec tout ça. Il faut faire quelque chose avec tout ça pour que ça ne nous détruise pas. Avec ce grondement de désespoir, avec ce gâchis interminable, avec ce furieux mal de vivre quand la vie est cruelle. Les êtres humains se défendent de la douleur insensée en l'ornant de la sagesse de la beauté. Nous écrasons du charbon à main nue et nous réussissons parfois à faire ressembler ça à des diamants. J'ai un peu de scrupules parce que ce n'est pas directement lié à ce que vous avez. Et il ne s'agit pas non plus de faire comme les gens qui avaient peur du train au 19e siècle, mais ce livre, il est absolument incroyable parce que c'est à la fois une attitude complètement scientifique, parce qu'elle est en écho avec le journal de Marie Curie, qui est une lettre d'amour à son époux, et puis à son époux Pierre Curie, mais enfin bon, c'est... Et Rosa Montero a perdu aussi son conjoint très tôt, donc elle, c'est la première approche, et puis parce qu'on lui a demandé de travailler sur le journal de Marie Curie, et il est phénoménal, ce livre, pour être à la fois dans la physique, dans les robots. Enfin bon. Mais c'est un livre pour adultes, mais qui se lit extrêmement bien, comme tous les livres que je vous ai amenés aujourd'hui, qui sont des livres un peu plus faciles que ce que vous avez. Mais vous, quand vous le transmettez, c'est très clair. Mais à lire, c'est plus compliqué. En tout cas, voilà, j'adore ce livre.
D'accord. Donc, comment dire là, donc par à travers les lectures de Françoise, donc après en début d'après-midi, on va la retrouver avec d'autres collègues libraires qui nous présenteront d'autres ouvrages de fiction et donc sur cette thématique qui était assez large, parce que au-delà de Tour d'horizon, 15 ans de science qu'on voulait élaborer, c'est effectivement l'avancée des sciences et derrière. Cette notion qu'on chercheur de se poser des questions par rapport au comment continuer à progresser et quelles répercussions sur la vie, notre vie en société ou individuelle. Voilà. Donc c'est pour ça un peu susciter des interrogations. Alors je ne sais pas si dans les bibliothèques il y a des jeunes ou dans les CDI, parce qu'il y a des documentalistes d'établissements scolaires, des jeunes qui se déplacent pour faire justement des exposés sur le boson de Higgs, pour reprendre cet exemple, ou des choses comme ça, si c'est des demandes ou des gens qui s'interrogent par rapport à l'actualité et qui viennent vous voir pour vous demander des informations complémentaires, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi ça m'avait interrogé. Bon, mais je crois que Thierry est prêt, donc on va pouvoir enchaîner pour respecter le timing.
Mettre à l'aise, ça va être difficile de passer après l'intervention précédente. Donc déjà, bonjour à tous. Je tiens à remercier l'espace Mendès France et tout particulièrement Christine Guiton de m'avoir invité à donner une conférence aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle année de programme de la science livre. Donc cette année, le thème est axé sur les progrès scientifiques au cours des 15 dernières années. Et donc j'ai choisi un sujet, sinon d'actualité, au moins qui fait l'objet de beaucoup de débats et de controverses, dont se sont saisis les médias, parce que c'est devenu un véritable sujet de société. Donc à l'heure où la technologie permet d'accéder à l'information génétique de chacun et pour des sommes relativement modiques, quelles sont les retombées aussi bien positives que les risques et les dérives possibles que ces technologies peuvent entraîner. Donc étant donné que vous, public, n'êtes pas forcément averti et familier avec ces notions de séquençage et de génome, je pense qu'il est utile de passer un petit peu de temps à vous donner quelques notions, à vous expliquer un peu en détail ce que recouvrent ces termes. Donc, pour commencer déjà, des généralités, vous savez que la cellule qui est représentée sur ce schéma ici représente l'entité élémentaire des êtres vivants. Le corps humain est constitué d'environ 200 types cellulaires différents, des types cellulaires très spécialisés, et pour autant spécialisés dans différentes fonctions vitales de l'organisme. Et pour autant, chaque type cellulaire possède le même patrimoine génétique. En effet, en dépit de leur spécialisation, toutes nos cellules sont les descendantes clonales de la fusion de deux gamètes, un spermatozoïde et un ovule. Et donc nouvel organisme, cette cellule œuf, est appelée zygote. Donc toutes nos cellules sont des descendantes clonales de cette cellule unique, de cette cellule œuf. Toutes nos cellules, les cellules animales, aussi bien que les cellules végétales, possède un noyau qui enferme notre patrimoine génétique, ce noyau qui est représenté sur ces schémas ici. Chez nous, ce noyau contient 23 paires de chromosomes qui sont visualisés ici au cours d'un karyotype effectué dans le domaine médical. On est capable de colorer les chromosomes avec des colorants spéciaux qui permettent de voir cette succession de bandes claires et de bandes foncées. Ici, vous avez le karyotype d'une personne de sexe féminin, puisqu'on retrouve deux chromosomes X. Ces chromosomes, chacun d'eux est lui-même constitué d'ADN. Donc la cellule, le chromosome, et ici une représentation schématique de l'ADN. C'est cet ADN qui représente notre patrimoine génétique, et c'est l'équivalent, si vous voulez, de 2 fois 23 rayonnages, de centaines de livres qui renferment les plans de construction de notre organisme. Chacun de ces chromosomes donc étant en double exemplaire, un hérité de son père et un autre hérité de sa mère. Donc ces plans de construction sont représentés par nos gènes qui ne constituent qu'un faible pourcentage de l'ensemble de l'information génétique contenue dans l'ADN et dans les noyaux de nos cellules. Ce faible pourcentage, c'est de l'ordre du pourcent, hein, donc c'est très peu. Et tout le reste semble ne pas avoir de signification particulière, mais en fait, ça participe pour beaucoup au contrôle de ces gènes, faire en sorte justement qu'on puisse aboutir au type cellulaire spécialisé qu'on a vu dans les premières diapositives. Le terme de génomique ne recouvre pas que l'ensemble des gènes ne recouvre pas que l'ensemble des gènes du patrimoine génétique d'un individu, mais bien l'ensemble du patrimoine génétique, l'ensemble de l'ADN contenu dans les chromosomes, dans les 23 paires de chromosomes. Contrairement à ce qui se passe à l'intérieur de la tour de Babel, l'information génétique inscrite dans l'ADN des êtres vivants correspond à une langue unique, un code génétique quasi universel, à quelques rares exceptions près. C'est le même code génétique pour tous les êtres vivants sur Terre. Et cette caractéristique a facilité son décryptage. Mais pour autant, la tâche s'est révélée vraiment ardue. Il a fallu de très nombreuses découvertes qui se sont étalées tout le long du XXe siècle pour arriver à connaître la structure de la molécule d'ADN et son contenu. Donc ainsi, une molécule d'ADN, représentée encore une fois sous une forme schématique ici, est constituée de deux brins enroulés l'un autour de l'autre sous la forme d'une double hélice. La découverte de cette structure de l'ADN, que l'on doit à James Watson et Francis Crick, qui ont publié leurs travaux en 1953 et qui leur a valu un prix Nobel, cet ADN est lui-même constitué donc, d'entités élémentaires qu'on appelle les nucléotides et qui sont représentés et symbolisés par quatre lettres A, C, G et T. Donc ici, si vous voulez, vous avez une partie de notre patrimoine génétique qui est représentée sous ce contenu-là, en fait, dans nos chromosomes. Et c'est l'ordre d'enchaînement de ces quatre bases qui constitue le message génétique. Il a fallu attendre les années 70 pour être capable de décrypter le contenu de nos génomes, d'être capable de lire l'ADN, c'est-à-dire de reconstituer la séquence, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est grâce à une technique qui a été mise au point par ce monsieur qui s'appelle Frédéric Sanger, qui est, comme Marie Curie, un des rares chercheurs à avoir obtenu deux prix Nobel. Un pour ses travaux sur la structure des protéines, et un précisément sur la mise au point de cette technique qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire le décryptage des génomes. Donc il a eu une vie bien remplie et riche. Et il est décédé il n'y a pas longtemps, hein, puisque c'était en fin novembre 2013. La technique mise au point par Frédéric Sanger est une technique qui est basée sur la synthèse, qu'on appelle aussi polymérisation dans notre jargon, de l'ADN. Et une synthèse qui est effectuée par des enzymes à l'intérieur de notre noyau, une enzyme qu'on appelle l'ADN polymérase. Et au cours de cette manipulation qui consiste à séquencer le patrimoine génétique des personnes ou d'un être vivant ou de l'ADN d'une façon générale, la technique est basée sur justement le séquençage et consiste à déterminer quels sont les nucléotides, les bases, qui sont incorporés au cours de la synthèse, une synthèse qu'on réalise in vitro. Si on est capable de dire quelle base a été incorporée à un moment donné, on est capable de donner la séquence de ce qui a servi de modèle pour faire ce copiage en quelque sorte. Hein. L'ADN polymérase va copier une matrice, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est constituée par donc l'ADN. C'est une avancée considérable, hein, technique, la mise au point de cette méthodologie. Et elle a ouvert la voie vers le séquençage des génomes entiers, c'est-à-dire du patrimoine génétique complet, d'abord de cellules simples, de bactéries. La première séquence de génome complet a été publiée en 1995, il s'agissait d'une bactérie. Et petit à petit, jusqu'à le patrimoine génétique de l'être humain. Et une première ébauche du génome du patrimoine génétique de l'être humain a été publié en 2001. Ça a fait beaucoup de bruit dans la communauté scientifique. Et cette découverte, cette nouvelle, on ne va pas dire que c'est une découverte, mais ce décryptage a fait l'objet de la couverture des deux revues scientifiques les plus prestigieuses, qui sont Nature et Science. Il s'agissait pourtant à l'époque uniquement d'une ébauche. Ce n'était pas le génome complet, mais on n'était pas loin du bout. Mais il a fallu encore 2 ans. Pour avoir l'intégralité du génome humain. Donc c'est la première fois en 2001 que le patrimoine génétique de l'humain a été rendu public. Donc tout ceci a été extrêmement fastidieux, ça a pris beaucoup de temps, ça a été extrêmement coûteux, ça a mobilisé beaucoup, beaucoup de laboratoires et beaucoup de chercheurs. et ça a nécessité une amélioration des techniques, de la technique initiale. Ça a nécessité son automatisation, ça a nécessité également un fort développement de la bioinformatique capable de faciliter cette automatisation et de gérer la quantité de données qui étaient générées par ces techniques de séquençage. Il faut savoir aussi que le séquençage a largement bénéficié de la mise au point d'une autre méthodologie qui a véritablement révolutionné la biologie dite moléculaire, mais pas seulement. L'ensemble des disciplines de la biologie en ont bénéficié, et même la paléontologie, puisqu'on est capable maintenant d'aller rechercher des séquences d'ADN et de les séquencer dans des échantillons de fossiles, que ce soit des os ou autres. Cette technique a également eu énormément d'applications en médecine, en criminologie. Il suffit de se référer à toutes les séries américaines que l'on peut voir sur nos écrans. Et en médecine légale également, dans le cas par exemple de problèmes dus à des questions de paternité. Donc il s'agit de la PCR, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un acronyme anglais qui fait référence à une réaction de polymérisation en chaîne, et ça consiste à partir de quantités infinitésimales d'ADN contenues dans un échantillon biologique comme une goutte de sang, ou autre, un bulbe de cheveux, d'amplifier, de photocopier l'ADN contenu à l'intérieur de à partir de cette matrice présente à l'état de trace. Ceci de façon à rendre cet ADN exploitable, manipulable, analysable. Donc la technique qui a été mise au point par Mulis lui a valu lui aussi un prix Nobel de chimie en 1993. Donc le séquençage a donc été basé à partir des années 76 et jusqu'au milieu des années 2000, essentiellement sur la technique développée et mise au point par Frédéric Sanger que je vous présentais tout à l'heure. Et de nouvelles techniques ont vu le jour à partir de la moitié des années 2000, tirant un large avantage de la PCR encore, donc cette fameuse technique qui permet d'amplifier des quantités infinitésimales d'ADN. Et par la mise au point en particulier de ce qu'on appelle la PCR en émulsion, c'est-à-dire la capacité de réaliser ces expériences dans des micro-volumes, sous la forme dans des micro-réacteurs, si vous voulez. Et c'est la mise au point de cette PCR en émulsion qui a ouvert la voie véritablement au séquençage à haut débit que l'on pratique actuellement. Le séquençage à haut débit a aussi vu le jour grâce au progrès de la bioinformatique d'une manière générale, et aussi au très fort investissement qu'ont consacré des géants américains de la biotechnologie comme Roche, dont l'application est montrée ici, un séquençage haut débit. Il y a eu également société Illumina, que je vais vous présenter juste après, ou encore Life Technologies, qui donc ont investi considérablement pour mettre au point ces techniques ces nouvelles techniques de séquençage. Donc c'est un vrai verrou technologique qui a été levé par le développement de ces techniques. Et il s'est agi encore une fois, après la PCR, d'une vraie révolution dans la biologie moléculaire. Et les applications sont actuellement extrêmement nombreuses donc à ce séquençage au débit, comme on va le voir sur les diapositives suivantes. Donc ces nouvelles technologies de séquençage ont été appelées séquençage de nouvelle génération, ou NGS en anglais. Elle présente en plus l'énorme avantage de pouvoir traiter à un haut débit la masse considérable de données qu'elle génère, et c'est pour ça aussi qu'on les appelle HTS, pour High Throughput Sequencing, ou séquençage à haut débit. Ces techniques, sans rentrer dans le détail, je vous épargnerai ça, consistent à séquencer de très courtes séquences, en très grand nombre par contre, mais toujours chevauchantes, et de les aligner sur un génome de référence, comme c'est fait ici. Donc grâce à ces techniques et la mise au point de ces techniques de nouvelle génération de séquençage, Les capacités de séquençage ont été considérablement boostées, comme c'est montré sur ce diagramme, où on voit là le nombre de bases, donc de lettres lues par machine, au cours des années qui s'étalent de 90 à 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que l'apparition de ces nouvelles techniques de séquençage ici ont considérablement boosté les capacités de séquençage des laboratoires. Et ça, ça a ouvert la voie vers le séquençage systématique des génomes et au-delà, donc vers la systématisation du séquençage de génomes individuels. Parallèlement à ces progrès en termes de capacité et de débit de séquençage, le coût a constamment évolué à la baisse. Et on voit aussi sur ce diagramme ici l'arrivée des séquenceurs dits de nouvelle génération qui ont considérablement fait baisser les coûts du séquençage qui était un des aspects limitants au départ à l'utilisation systématique de ces technologies. Donc en 2007, la séquence complète du génome de James Watson, donc un des co-découvreurs de la double hélice que je vous ai présenté tout à l'heure, a été publié. Donc ça, c'est l'article qui fait référence à ce séquençage. Et il en a coûté, comme vous le voyez ici, 1,5 million de dollars et seulement 4 mois et demi pour séquencer le génome de cette personne, donc un génome individuel. Alors que le projet Human Genome Project, ici, qui consistait à séquencer, qui aboutit à la première séquence complète du génome humain, est un projet qui a duré 13 ans, qui a coûté 2,7 milliards de dollars et qui a mobilisé un très grand nombre de laboratoires, et parmi lesquels les plus grands instituts mondiaux. Entre-temps, vous voyez que Craig Venter, qui est un des pionniers du séquençage au débit, qui a flatté un petit peu comme avec ça son ego et son côté mégalomaniaque, a séquencé son propre génome. Et c'est un projet qui avait pris déjà seulement 4 ans et dont la somme et le coût ici avait été considérablement diminué déjà par rapport à celui qui avait abouti à la première ébauche de la séquence du génome humain. Aujourd'hui, une société comme Illumina, dont j'évoquais le nom tout à l'heure, propose du séquençage dit low cost, hein, à haut débit, mais low cost, c'est-à-dire une plateforme et des machines dont le coût est considérable, hein, mais capable de décrypter le génome humain en seulement 24 heures, et pour une somme qui ne cesse de baisser et qui avoisine pour le moment l'ordre de 1000 dollars, seulement 1000 dollars. Et de nouvelles techniques continuent d'émerger. Si la technique développée par une entreprise britannique qui s'appelle Oxford Nanopore Technologies, ou ONT, propose maintenant un séquenceur d'ADN sous une forme miniaturisée ici, qui utilise une nouvelle technique qui est basée sur la mesure du flux électrique des séquences d'une molécule d'ADN lorsqu'elle passe à travers un pore biologique. Et donc cet appareil ici coûte seulement 1000 euros. Donc ces techniques de séquençage de nouvelle génération ont contribué à améliorer le diagnostic prénatal de maladies génétiques ou encore d'anomalies chromosomiques comme la mycoviscidose, la maladie de Tay-Sachs, maladie de Huntington, la thalassémie. Donc anomalie chromosomique comme la trisomie 21. Par exemple, pour la trisomie 21, elles sont amenées à remplacer les amniocentèses qui sont pratiquées et qui présentent un risque pour le fœtus non négligeable, puisque maintenant, à partir de ces techniques, on peut établir un diagnostic uniquement à partir de sang. En fait, de fragments d'ADN qui sont contenus dans de fragments d'ADN du fœtus qui circulent dans le sang de la mère. Donc, il suffit de faire une prise de sang pour déterminer le type et déterminer si le fœtus est atteint de trisomie 21 ou pas. Donc non invasif, donc avec un risque évidemment réduit au minimum. La généralisation du séquençage à haut débit doit aussi permettre d'améliorer le dépistage de mutations qui prédisposent à certaines pathologies. Cet aspect a été largement commenté et dans la rubrique People avec l'annonce de la double mastectomie pratiquée sur l'actrice Angelina Jolie, après que des tests génétiques lui ont appris qu'elle était porteuse d'une mutation dans un gène qui s'appelle BRCA1 qui augmente le risque de développement d'un cancer du sein, fait monter à 80%, de l'ordre de 80%, et du cancer de l'ovaire à 50%. Cancer de l'ovaire dont sa mère est décédée d'ailleurs. Donc c'est ce qu'il va falloir quand même garder à l'esprit, c'est que la présence d'une mutation dans certains gènes, qu'on va qualifier de critique, permet seulement d'évaluer un facteur de risque, en aucun cas une certitude de développer la pathologie. En effet, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu, dont l'interaction avec l'environnement au sens large, que ce soit l'alimentation, l'exposition à certaines molécules ou substances toxiques, au tabagisme, etc. Donc c'est cette interaction entre l'information génétique de chaque individu et l'environnement que l'on appelle l'épigénétique. C'est qui va influer sur l'expression des gènes qui peuvent éventuellement, encore une fois, conduire à une pathologie. En recherche fondamentale, maintenant, les techniques de séquençage à haut débit ont permis de se lancer dans la recherche de nouveaux variants, de nouveaux gènes prédisposant à d'autres maladies, notamment des maladies multifactorielles, c'est-à-dire pour lesquelles ce n'est pas un gène qui est impliqué, mais plusieurs. C'est le cas, par exemple, d'une étude qui a été menée par l'INSERM qui a permis de trouver 29 nouveaux variants qui sont associés à une prédisposition, on va dire, au développement de la sclérose en plaques. Ce type d'approche, qu'on appelle GWAS, hein, pour Genome-Wide Association Studies, est également appliqué dans le cas d'autres pathologies comme le diabète, la maladie d'Alzheimer et d'autres encore. Donc au final, ces nouvelles approches nous conduisent vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée. Ça, c'était pour dire que d'autres applications, hein, c'est par exemple dans le cas du cancer, hein, dans la recherche sur le cancer, il existe actuellement un projet mondial qui s'appelle ICGC, pour International Cancer Genome Consortium, qui réunit un grand nombre de laboratoires à travers le monde et qui s'est donné pour objectif de séquencer de façon systématique 50 types de cancers à partir de 25 000 génomes de patients atteints de ces différents types de cancers. Et ceci afin d'établir donc un catalogue des altérations génomiques spécifiques de chaque cancer. Donc là aussi, hein, il faut faire attention, la plupart des cancers ne sont pas hérités. Il y en a certains qui effectivement sont hérités ou qui prédisposent très fortement, comme le cas que j'ai cité tout à l'heure avec le gène BRCA1. Mais les cancers résultent de mutations essentiellement dites somatiques, c'est-à-dire qui touchent les cellules de notre corps, et ceci après notre naissance, comme c'est montré sur ce diagramme ici. Donc ce type d'approche ici, c'est systématique, doit conduire à développer de nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic et de traitement. Donc ce que je disais, que ces nouvelles approches nous amènent aussi vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée. En effet, des études ont montré que les médicaments ne sont pas assimilés de la même manière en fonction du profil génétique de chaque personne. Et ceci nous amène vers ce qu'on qualifie maintenant de pharmacogénétique, c'est-à-dire quelque chose qui consistera à administrer à chaque patient une thérapie optimale en fonction de son ce qu'on appelle sa carte d'identité métabolique. Alors, des aspects un peu plus lucratifs, on va dire, et qui nous amènent donc vers les dérives possibles. Donc, de nombreuses startups de par le monde se sont ruées vers cette manne génomique. Certaines proposent des tests de paternité qui sont vendus en vente libre sur Internet. Ou encore, vous avez l'exemple de la société 23andMe, qui a proposé un test permettant de dresser une carte génétique d'une personne de façon plus ou moins, en caractérisant le profil de variants de gènes qui sont supposés prédisposés à certaines maladies. Et cette prédisposition n'étant pas dans certains cas formellement prouvée de façon par la communauté scientifique. Ce test était en vente libre, là aussi, hein, par Internet, et les personnes qui le pratiquaient recevaient par mail le verdict, sans aucune précaution, ni explication, ce qui était, vous pouvez l'imaginer, susceptible d'entraîner, de causer de gros dégâts psychologiques pour les personnes qui recevaient le résultat de ces tests, en fonction, bien sûr, de ce qu'ils allaient lire. Donc finalement, l'administration américaine, représentée par la FDA, hein, pour Food and Drug Administration, a décidé d'interdire, s'est alarmée de cette dérive possible, et a décidé d'interdire ce test, et ce type de test. Et donc 23andMe a été obligé de retirer du marché ce test à la fin de l'année 2013. Depuis l'interdiction de ce test très controversé, cette société 23andMe continue à commercialiser un test qui propose aux personnes qui le pratiquent de s'intéresser à leurs origines en essayant de déterminer le pourcentage d'ADN supposé venir plutôt d'Afrique, plutôt de l'Europe de l'Est, etc., etc. Donc les origines ethniques des personnes, et ceci pour une somme, vous voyez, $99 seulement, entre guillemets. Finalement, l'exemple de cette société peu scrupuleuse, hein, il y en a d'autres très certainement qui seraient prêtes à pratiquer ce genre de choses, hein, pour des questions de business, hein, nous amène à nous interroger bien sûr sur les dérives possibles liées à la généralisation du séquençage au débit. Et cela pose des questions éthiques qui ont été soulevées par d'éminents scientifiques, dont le docteur Jacques Testard, qui a été un des pionniers de la fécondation in vitro, donc quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, aussi bien en termes techniques qu'en termes d'éthique, hein, puisqu'il avait déjà été confronté à ce genre de questionnement, mais pas forcément pour la même raison, mais en tout cas ce même type de questionnement, lorsque cette technique de fécondation in vitro était mise au point. Et Jacques Testard et d'autres, hein, c'est pas le seul, s'alarment des dérives eugénistes, hein, que ce type de généralisation du séquençage systématique pourrait entraîner, en particulier lorsqu'on l'applique pour faire du diagnostic préimplantatoire, sous la pression de parents désireux de mettre au monde l'enfant parfait, sans prédisposition à telle ou telle maladie. Si ce n'est, ne serait-ce que déjà que pour le sexe, la couleur des cheveux, des yeux, etc. Donc, en conclusion, non seulement il va falloir rester vigilant pour éviter que les dérives prennent le pas sur les bénéfices que peuvent entraîner que peuvent apporter ces techniques. Il y a des comités d'éthique partout, hein, qui veillent à ce que ces dérives ne se répandent pas trop. Et il faudra aussi certainement se pencher davantage, plus en tout cas qu'on ne le fait actuellement, sur les conséquences psychologiques auprès des personnes que peuvent déclencher la connaissance des facteurs de risque à telle ou telle maladie au cours qu'il est susceptible de développer au cours de son existence. Voilà, je vous remercie infiniment en tout cas pour votre attention et le débat est ouvert. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Voilà.
Merci. Donc, si vous avez des réactions, des questions.
C'est l'heure de déjeuner.
Tout est calme, finalement. C'est les particules qui ont étillé plus le boson de Higgs et tout ça, l'antimatière. Bon. Mais peut-être au cours du repas ou les questions vont venir plus tard. Voilà. Donc, je vois que mes collègues de l'animation nous ont rejoints. Donc, poursuivre le programme. Donc, on va vous présenter donc, les animations proposées cette année. Donc, je ne sais pas qui commence. Astronomie. Voilà, comme tu auras peut-être moins l'occasion, parce que cet après-midi, tu ne pourras pas être là. Je crois que tu as une séance de plané. Donc, autrement, vous les retrouverez. Donc, Antoine et Stéphanie, que vous connaissez déjà, vous les retrouverez cet après-midi. Donc, mais je vais donner la parole à Eric, si tu es prêt. Et puis, il y a également, excuse-moi, je vois Laurent, qui était caché là, de l'école de l'ADN, qui est également là, que vous retrouverez cet après-midi. Voilà. Alors, voilà. Le temps qu'Éric s'installe. Donc, on a mis, comme chaque année, quelques panneaux des expositions qui vous sont proposées dans le hall moins 1, là, en sortant, vous les verrez. Et puis, au fond de la salle, aussi, quelques ouvrages, soit ceux qui seront présentés cet après-midi, soit ceux issus de la bibliographie qui vous a été remise. Donc, vous trouverez également en ligne la bibliographie, les ressources, la feuille que vous avez ici. Et puis, on essaiera d'y joindre la liste des livres commandés par Françoise. Voilà. Alors aussi, pour compléter, parmi les ressources, donc, il y a les trois conférences que vous avez entendues qui, donc, les conférenciers ont gentiment accepté éventuellement d'aller faire une ou deux conférences en région à votre demande. Et vous aurez également deux autres propositions sur les cellules souches, parce que c'était aussi, on en parle beaucoup, c'est d'actualité. Et puis, des choses aussi sur la paléontologie, notamment avec les origines de l'homme. Donc, vous trouverez les résumés dans le document ressources, voilà, soit sur papier, soit en ligne. Et puis quelque chose sur l'histoire de la physique, je ne sais plus, je n'ai plus en la tête quelque chose que fait notre collègue Patrice Remeau. Voilà. Donc Eric, c'est quand tu veux.
D'accord.
Rapidement, comme d'habitude.
Mais bien sûr, bonjour à tous. Je peux être concis et rapide quand il le faut. Je peux être plus long quand on ne le prévient pas. Donc, alors la thématique a été un petit peu difficile pour moi. Parce que parler d'astronomie, en fait, par rapport à 15 ans de science, c'est pas qu'il s'est rien passé en astronomie, bien au contraire, mais aborder des sujets simples dans ce qui s'est passé, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu énormément de bouleversements, même des révolutions à venir certainement liées à la physique, avec des choses qui ont été découvertes comme l'énergie noire, la matière noire, mais je ne me voyais pas forcément très très bien présenter cela à des enfants, à des jeunes. Donc, en regardant en fait dans mes ateliers animation en astronomie, on a essayé de sélectionner des choses et en fait, c'était un peu limité. Alors, on a gardé une sorte de porte de secours avec un instrument qui permet d'aborder un petit peu tous les sujets et éventuellement même rapidement, qui est le planète orbite itinérant. En fait, c'est une structure qui permet de recréer un ciel étoilé. Et au travers de ce ciel étoilé, eh bien, on peut aborder différents sujets. Donc là aussi, au niveau du prise contact, au niveau de l'animation, eh bien, on pourra orienter sur tel ou tel sujet. Donc ça permettrait d'alléger en fait, certains sujets. On pourrait aussi parler même des très, très grands télescopes. Hein. Donc voilà. Donc un outil en fait, qui peut être multi-thématique, donc le planétarium itinérant. Ensuite, ce sont deux ateliers en fait, qui se ressemblent, mais pour des âges différents, liés au système solaire. Alors le système solaire, depuis 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas faire l'historique. Mais il y a deux, trois points qui peuvent être intéressants de présenter. C'est par exemple pourquoi maintenant il y a 8 planètes et non plus 9, comme auparavant, avec une petite mini-révolution en 2006, c'est le cas de Pluton. Et de revenir finalement sur ce que c'est qu'une planète. On peut aussi essayer d'aborder un peu plus la planète Mars, parce que cette planète Mars a énormément changé le visage entre ce qu'on pensait savoir de cette planète dans les années 80, ce qu'on a cru en 90 et ce qu'on sait aujourd'hui. C'est en fait des Mars différentes qu'on voit devant nos yeux, avec surtout l'idée de cette histoire de l'eau sur cette planète, et donc de la vie. Je propose ici un atelier, alors plutôt pour les plus grands, mais ça peut s'adresser donc à des fins de collège et lycéens, autour de comment trouver une planète habitable. Alors, je n'ai pas proposé l'atelier de trouver réellement une planète dans le ciel, mais c'est essayer de montrer en fait comment on peut chercher de la vie dans l'univers, qu'est-ce que c'est que la vie et quelles sont les étoiles qui seraient intéressantes pour rechercher cette vie-là et est-ce qu'il y a effectivement des chances de trouver des planètes autour de ces étoiles. Donc, c'est essayer de mettre en forme ces questionnements-là au travers, même à la fin, d'un petit jeu avec des dés pour essayer de montrer une notion de probabilité de trouver de la vie intelligente dans l'univers. Et ensuite, donc j'avais aussi dans mon catalogue des sujets justement d'actualité, mais donc un peu plus techniques, donc pour des publics plus âgés, enfin âgés, c'est à partir du fin de collège, lycéen et supérieur. Et on a eu du mal à essayer de donner un nom à ces choses-là parce que je ne voulais pas les appeler des conférences, je le réserve pour les chercheurs. C'est pas une simple animation, donc c'est pour ça qu'on appelait ça les rendez-vous en astronomie. Et rendez-vous astronomie, eh bien, c'est un animateur qui vient présenter un sujet avec une sorte de porte ouverte au niveau des échanges et des débats. Et donc, les trois sujets que j'ai retenus, mais à la limite, là aussi, si vous avez envie d'un autre sujet qui est disponible, on peut aussi l'aborder. Donc, les trois sujets, ça a été les exoplanètes. Donc, comment ils ont été découvertes il y a de ça 20 ans, comment on fait pour les découvrir et où est-ce qu'on en est par rapport à ces découvertes-là. Un sujet sur la vie des étoiles pour aborder en fait comment on va analyser la lumière de ces objets-là et comment on va en déduire la vie des étoiles. Et puis revenir sur ce système solaire, donc là sous forme, donc justement, je vous présentais de rendez-vous astronomique, mi-conférence, mi-animation. Voilà, donc j'espère avoir été concis, clair. Je ne vois pas où est Christine. Elle est où? Où es-tu, Christine? Elle est sortie. Donc, je suis même en avance. Incroyable. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, si vous voulez des approfondissements, je peux en donner. Et puis là aussi, bah, s'il y a un sujet astro qui n'est pas dans la liste, mais que vous aimeriez, bah, n'hésitez pas à me contacter. Après, je vous dis oui, c'est possible, j'ai ça, ou non, ça va être difficile parce que je n'aurai pas le temps. Voilà, donc je suis ouvert à des choses et voilà, n'hésitez pas à... Ben, la jauge, c'est une classe complète, voire deux classes. Alors, pas au-delà de deux classes, parce qu'après, gérer, c'est un peu compliqué, mais c'est des grands effectifs. L'idée des rendez-vous astro, justement, c'était des effectifs importants. Hein. Après, le nombre de participants, ça dépend aussi de l'activité des enfants. C'est-à-dire qu'en lycée, des bonnes classes, même ça m'est arrivé de faire devant trois classes. Pas de problème. Et des fois, une classe est bien suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? voilà, donc... alors oui, je vois après les CM1, CM2, pour voyage en système solaire, là, en classe entière, ça suffit parce que deux classes de CM, là, c'est plus difficile à gérer. Hein. Mais pour les grands, il n'y a pas forcément de limitation de personnes. Et le tarif de ce rendez-vous n'a pas été marqué, mais c'est 70€. J'ai un petit oubli. En fait, depuis combien de temps? 2-3 ans, on a essayé de simplifier les tarifs avec, dans notre jargon, les tarifs A, B, C, D. Les tarifs A, c'est 45€, c'est des ateliers d'une heure sans consommable. Tarif B, 55€, c'est une heure avec un petit peu de consommable. Tarif C, c'est soit une heure avec beaucoup de consommable, soit une heure et demie sans consommable. Et le tarif D, c'est 95€ pour des ateliers soit qui demandent beaucoup de consommables d'une heure ou soit des ateliers de 2 heures. Voilà. Oui. Je serai en partie disponible, parce que si je vais dire que je suis disponible, tout le monde va me demander. Mais donc, je vais être indisponible une des deux semaines. Et il faut que je regarde la lune pour vous répondre, parce que en fait, pendant les vacances de février, c'est compliqué l'astronomie, je propose un stage pour les enfants ici à Mendès France, et on fait une observation durant ce stage, et il ne faut pas qu'il y ait la pleine lune. Donc des fois, ça peut déterminer une des deux semaines. Et donc cette semaine-là, je suis relativement disponible. Et la semaine d'après, oui, mais une semaine ne compte que 5 jours. Et puis je compte aussi prendre un petit peu de repos. Donc oui, mais je ne pourrais pas dire oui à tout le monde. Voilà. Y compris pour les samedis. Je dirais oui à certains, mais je ne pourrais pas faire tous les samedis non plus. Bon, Laurent va peut-être prolonger, même si Christine n'est pas là. Et puis quand elle reviendra, je reviendrai là et je continue à parler, comme ça elle croira que...
Voilà, donc bonjour. Alors moi, je vais vous parler d'ateliers donc proposés par l'École de l'ADN, qui est une association hébergée ici hein, depuis 2006. Ça va faire un peu écho à ce que Thierry vient de vous présenter. Hein. Je pense qu'il a montré un peu voilà, que dans les sciences du vivant, bah, finalement, le développement technologique, l'arrivée de l'informatique et tout, on a vraiment... ça s'accélère beaucoup, hein, voilà, notamment dans les méthodes d'investigation. Alors, nous, on essaie de proposer quelques ateliers qui pourraient couvrir un large public, puis qui font écho un petit peu à quelques termes. J'en notais quelques-uns là, pendant la conférence de Thierry, mais c'est vrai que quand on parle de séquençage, de génome, de tests ADN, tests de paternité, des OGM, de biodiversité, de clonage, tout ça, c'est des termes qui sont arrivés un peu de cellules souches. Hein, depuis 15-20 ans, ça arrive de... dans le quotidien, qu'on a essayé de proposer des ateliers qui font écho un petit peu à trois termes, ADN, OGM, biodiversité, en essayant de mixer un peu des ateliers qui peuvent être accessibles à des plus petits, à des collégiens, à des lycéens. Juste pour ça, un peu l'organisation de ces ateliers, hein. L'an dernier, on est intervenu dans 7 ou 8 structures. On peut prendre des classes entières, on les divise en deux quand il s'agit de scolaires, on intervient à deux. Et puis, on a toujours besoin d'un petit peu de temps d'installation, une petite heure avant l'atelier, parce qu'on installe le matériel donc, pour les ateliers. Alors, sur ce mot ADN, alors il y a un atelier qu'on fait beaucoup qui s'appelle ADN élémentaire, mon cher Watson, donc, où vraiment, on peut le démarrer à partir de 7 ans. On peut l'adapter aussi, on le fait souvent voilà, un petit peu à la demande des enseignants. Ce mot ADN, il est... même sorti un peu vraiment du monde scientifique. On l'entend beaucoup hein, dans le langage quotidien. Pour anecdote, ce matin, j'entendais un grand chef d'entreprise allemand qui disait que la franchise s'était inscrite dans l'ADN de son entreprise. Voilà, je ne le citerai pas, vous avez peut-être idée. Bon, la franchise, peut-être pas l'honnêteté, mais au moins la franchise était inscrite et s'inscrira dans les années à venir. Voilà. Donc, les hommes politiques aussi nous parlent beaucoup d'ADN, qui est, voilà, ça s'inscrit dans notre ADN. Donc, l'idée sur ça, on peut vraiment parler de clonage, on peut parler de plein de choses hein, sur cet atelier, donc et grand public, et puis sur des scolaires. On le fait parfois avec des troisièmes, et on peut le faire avec des cycles 3, donc au niveau du primaire. Ensuite, alors, un atelier qui fait vraiment écho à ce qui vous a été présenté, qu'on n'avait pas proposé jusqu'à maintenant, qui est ADN base d'un cluedo moléculaire. Donc c'est un atelier où on va jouer un peu aux experts, donc au niveau des participants, puisqu'on leur donne de l'ADN de différents suspects, de l'ADN retrouvé sur le lieu d'un crime, et puis on essaie de savoir qui a laissé son ADN. Donc c'est un atelier, alors peut-être plus à réserver. Alors nous, au niveau des scolaires, hein, on le fait avec des collégiens à partir de la classe de 3e. Des lycéens, on peut le faire presque à tous les niveaux. Puis en grand public, ici, on le fait à partir d'une douzaine d'années. Donc 12 ans et adultes, hein, à chaque fois c'est à partir d'eux. Il faut compter à peu près 2 heures pour cet atelier, 2h, 2h30, mais je vous redonnerai, j'ai imprimé des petits documents. Et puis là, en fin d'atelier, hein, donc on peut parler bah, de tests de prédisposition, de diagnostic de maladie, on peut parler de tests de paternité, on peut parler de plein de choses. Parce que l'idée à chaque fois, c'est qu'on réserve 20-30 minutes à la fin de l'atelier pour discuter un peu par rapport à ce qu'on a fait en pratique, quoi. Donc un autre mot hein, dont on entend un petit peu moins parler en ce moment, pourtant il se passe encore plein de choses, mais c'est vrai que la presse ne nous parle plus trop d'OGM là. Pourtant ça reste un sujet d'actualité chez nos voisins par exemple en Europe de l'Est où ils font un pas en avant, un pas en arrière, et on peut proposer un atelier qui s'appelle OGM mode d'emploi où le but c'est vraiment de découvrir un peu ce qu'est la transgénèse et après bah, de discuter sur cet acronyme hein, qui fait beaucoup débat. Voilà, nous l'idée, voilà, c'est de rappeler que derrière le haut, c'est organisme. Et puis là, ça peut vraiment faire l'objet de discussions. Hein. Donc, c'est un des rares ateliers où c'est toujours des expériences qu'on va faire, où nos participants n'auront pas les résultats de l'expérience aussitôt, mais on peut vous renvoyer les résultats hein, donc en scannant ces résultats donc, dans les jours qui suivent. Au moins 2 jours, voilà, il faut nous laisser un petit peu de temps. Donc, 1h30 à 2h. Et puis, un autre atelier hein, qui peut être proposé, Invisible Biodiversité. L'idée, c'est de montrer un peu que la biodiversité, ça commence sous nos semelles presque, puisque en gros, si je résume l'atelier, hein, dans quelques gouttes d'eau, on peut aller faire un petit inventaire de biodiversité très facilement, aller voir un peu ce qu'on trouve dans différents environnements. Donc ça peut être vraiment en grand public à partir de 7-8 ans. sur des scolaires, là on vient de faire par exemple toute une série de classes de 6e dans un collège, là, donc en 6e ça correspond à leur programme. Donc ça c'est 3-4 ateliers voilà, qu'on a mis un peu en avant, puis après bah, si vous venez cet après-midi je vous décrirai vraiment un peu le contenu des ateliers, et si vous allez sur le site bah, c'est aussi possible de piocher un peu dans les autres ateliers, il y en a une vingtaine, voilà, ça c'est 4 qu'on a mis sur la programmation 2016. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces ateliers. Non. Ah, les prix. Un tarif qui est le même. Alors, le même, quel que soit le temps d'intervention, quels que soient les consommables, c'est 85€ par groupe de 16. Voilà. Là, c'est les ateliers, on a beaucoup de consommables. Hein, sur, voilà, beaucoup, puisque dans ces ateliers, l'idée, c'est que vraiment chacun manipule. Chacun fait son parcours d'expérience et puis il va analyser ses résultats par la suite. Quoi. Voilà. Donc je serai là cet après-midi. Voilà, j'ai préparé des documents voilà, reprenant vraiment ce que je viens de vous dire. Puis le détail, ben, ce sera pour cet après-midi. Je passe la parole, je pense, à Antoine ou à Stéphanie. Ou aux deux.
Voilà, donc bonsoir. Oui. Donc on parlait de Stéphanie que vous connaissez sans doute puisqu'elle intervient déjà depuis plusieurs années, mais vous connaissez sans doute pas Élodie qui est nouvelle chez nous, qui intervient et à l'école de l'ADN et à l'espace Mendès France. Donc il se peut qu'elle soit aussi l'intervenante qui vienne chez vous. Voilà. Je vais essayer d'être, on va essayer d'être assez bref. On refera un petit détail des ateliers pour ceux qui sont là cet après-midi. Donc concernant les ateliers qu'on a décryptés, ils sont évidemment en lien avec la thématique de la science, ce livre, c'est-à-dire 15 ans de science. Alors dans les ateliers qu'on avait cette année et qu'on a pu trier en fonction de la thématique, hop, je reprends, voilà. Donc, toutes les connaissances qui sont liées en fait à l'énergie et au mode de production d'énergie. Donc, c'est quoi l'énergie ? C'est l'atelier qui permettra en fait de décrypter les différentes sources d'énergie qui sont utilisables aujourd'hui et comment est-ce qu'on fabrique l'énergie aujourd'hui pour tendre vers la mixité énergétique pour plus tard. Un atelier qui s'intitule « La chimie passe au vert ». Donc, on parle beaucoup de chimie verte, chimie durable. Là, l'idée, c'est de montrer un petit peu où est-ce qu'on en est de ces recherches, à quoi sert la chimie durable et quels en sont les grands principes. Et on essaiera de fabriquer des plastiques bio à partir de fécules de pommes de terre ou de choses comme ça. L'homme évolution, un grand classique, toutes les sauces avec tout maille, hein, sauce piquante, sauce aigre-douce, tout ça. Non, on l'a surtout décliné en fait en atelier petit groupe et en atelier version conférence. Alors la différence c'est que on a beaucoup de matériel type fossile qu'on pourra faire passer en petit groupe, un petit peu moins en version version conférence. Et version conférence peut être aussi proposée à des adultes, peut-être en soirée ou des choses comme ça. L'atelier inspecteur insecte, donc qui parle des différentes techniques de la police scientifique, notamment pour dater le décès d'une victime et savoir depuis combien de temps elle se trouve sur le site. C'est vrai qu'on parle beaucoup des techniques d'investigation criminelle à la télé ou autre. Voilà, donc on propose de le faire ici. Je fais une petite aparté, vous regarderez bien l'âge des participants pour cet atelier, puisqu'on parle quand même de scènes de crime, des choses qui ne sont pas très fun. Voilà. Dans la même dynamique, donc concernant les techniques d'investigation criminelle, on a un autre atelier qui, lui, est plus axé sur les empreintes digitales. Voilà. Donc, empreintes génétiques, vous irez voir Laurent à l'ADN, et empreintes digitales, voilà, on fait aussi, mais Laurent parle aussi a aussi un atelier, je crois, sur les empreintes digitales. Ouais. Je parlais des énergies tout à l'heure. Il y a aussi l'habitat qui a beaucoup changé, notamment tout ce qui est économie d'énergie dans la maison. Donc on a un atelier qui s'intitule « Vers un habitat durable » aussi qui permet de traiter cette thématique. Voilà. Le cerveau à tous les âges, également toutes les connaissances, les dernières connaissances sur le cerveau et notamment sur ce qu'on appelle la réserve cérébrale, qui permet de comprendre les effets du vieillissement et de contrecarrer justement ces effets du vieillissement sur le cerveau, au travers d'un jeu, un jeu de lois qu'on a mis en place pour traiter cette thématique. Et puis enfin, on en parle beaucoup, tout ce qui est changement climatique. Donc là, on a un atelier qui s'intitule « Petites histoires climatiques » qui permet de savoir comment est-ce qu'on a pu connaître les climats du passé, savoir qu'il y a eu des réchauffements, refroidissements, mais surtout quelle est la différence avec le réchauffement qu'on a actuellement et pourquoi est-ce qu'on impute à l'homme ce réchauffement. Voilà. Et pour terminer, on a un atelier spectacle qui s'intitule « L'air, un liquide ». Alors on pourrait se demander qu'est-ce que ça fait dans 15 ans de science. Eh bien, sachez que le fameux skateboard qui avait été imaginé dans « Retour vers le futur a été réalisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait faire. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut utiliser des aimants très puissants et ces aimants, on va les refroidir à une température de moins 196 degrés pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle la sustentation magnétique. C'est ce qu'on va présenter dans l'atelier ici. Voilà. Vous avez un autre exemple aussi avec le Maglev, le fameux train au Japon qui a atteint la vitesse de 600 km/h, je crois, il y a quelques semaines. Voilà. C'est itinérant également. Ouais. Donc version conférence. C'est-à-dire que là, on ne touche pas, on regarde avec les yeux. Touche pas avec les yeux, avec les mains. On regarde pas avec les mains, voilà. Oh, fatigué l'animateur. Stéphanie, Elodie, des choses à rajouter peut-être ? Non ? On rentrera un petit peu plus dans le détail avec des photos, du matériel dans l'après-midi pour ceux qui veulent. Donc au niveau des ateliers, on est sur des effectifs demi-groupes, donc 16 enfants en moyenne, sauf pour les versions conférences. Voilà, donc 9 ateliers manipulatoires, 2 ateliers type conférence. Et puis pour vos inscriptions, le mieux serait que vous nous donniez 2 dates pour qu'on puisse essayer après de jongler et de satisfaire tout le monde. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on vous souhaite un bon appétit.
C'est une petite blague, on mange pas encore. Non, je reprends la parole, vraiment. 10 secondes. On a eu un exposé tout à l'heure sur le boson de Higgs et l'accélérateur de particules. C'est juste une petite information. Au TAP Castille, l'automne prochain, ce sera le lundi 23 novembre, il est projeté un documentaire film qui s'appelle La fièvre des particules. Et c'est l'aventure justement de chercheurs qui vont utiliser pour la première fois cet accélérateur-là. Et voilà, je voulais simplement signaler cette date. Voilà, c'est tout. Bon appétit.